Mesdames, messieurs, bon dimanche. Nous sommes ravis de vous savoir à l'écoute de Radio Mandeléo ce jour. Nous vous souhaitons donc une excellente journée et surtout bienvenue à l'écoute de votre émission, l'émission Paix et Développement, une émission de débat sociopolitique et économique. Ce dimanche, nous sommes le 7 juin 2026. Jean-Claude Ndagué assure la mise en onde devant ce micro pour la présentation de cette émission Expédie Kialou. Au sommaire de cette émission, une partie de l'opposition à RDC a appelé à une journée ville morte mercredi à Kinshasa, une initiative portée par la plateforme C64 qui regroupe plusieurs partis afin de s'opposer à toute modification de la constitution voulue par le pouvoir en place et qui pourrait permettre au président Tshisekedi de rester à la tête du pays après son deuxième mandat. Selon certains médias, Kinshasa s'est réveillé au ralenti. Peu de circulation, ce qui n'est pas habituel dans les rues et pas d'embouteillage, notamment sur les grands axes pour sortir de la ville. Certains magasins sont restés fermés et des écoles ont signalé des absences du côté des élèves et des professeurs. L'opposition congolaise affirme avoir obtenu une large adhésion à son mot d'ordre du 3 juin 2026. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, C64 se félicite de la réussite de la journée ville morte qu'elle interprète comme un signal fort adressé au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Côté majorité présidentielle, on a plutôt qualifié la journée ville morte d'une journée vivante, estimant que l'appel de l'opposition n'avait pas suscité l'effet escompté. Pour éviter que cette journée soit très suivie dans la fonction publique, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avait rappelé les dispositions légales et réglementaires relatives à l'assiduité, la neutralité et le politisme des agents des services publics. Au niveau de l'Assemblée nationale, la commission PAJ a déjà fini son travail. La proposition de loi sur le référendum pourrait être soumise pour adoption à la plénière dans les jours qui suivent. Quelle évaluation faire de cette première action de l'opposition? Quelle analyse faire de l'attitude des acteurs tant au niveau du pouvoir que de l'opposition? Jusqu'où ira la démarche du changement de la constitution? Nous chercherons à apporter des réponses à ces questions dans l'émission Paix et Développement de ce jour. Vous nous écoutez dans la ville de Bukavu sur 88.8, dans les territoires sur 91.7. Vous nous suivez partout au monde sur internet à travers le www.radiomandeleo.org. Merci infiniment pour votre attention soutenue.
Rose meat is nyama choma, the drums that we play with.
Merci, très chers auditeurs. Nous vous souhaitons donc un excellent dimanche. Merci de nous suivre ce jour pour, bien évidemment, comprendre la marche de notre société et l'actualité politique au niveau national et au niveau provincial. Nous allons commencer cette émission par le rappel des nouvelles. Il y a cette décision de la coordination de l'AFC M23 modifiant et complétant la décision du 6 avril 2025 portant désignation et approbation des administrateurs des territoires et des administrateurs des territoires assistants, des bourgoumestres et des bourgoumestres adjoints, d'un chef de cité et d'un chef de cité adjoint dans la province du Sud Kivu. Je vous dispense de la formule protocolaire. Mais allons à l'essentiel. Il est donc décidé à l'article 1, vie pour la ville de Bukavu sont désignés et approuvés au poste de maire de la ville, les maires de la ville adjoints, des bourgoumestres et bourgoumestres adjoints regardent leur nom. Les personnes ci-après, Monsieur Kialangali Loua Mulundani Nicolas, maire de la ville de Bukavu, Madame Nyota Céline, maire de la ville à Djouan, commune de Baguira, monsieur Chaka Mouroza, bourgoumestre, monsieur Baya Léon, bourgoumestre adjoint, à la commune d'Ibonda, madame Mouese Priska est nommée bourgoumestre, monsieur Moutounoua Mboulanga, bourgoumestre adjoint, à la commune de Kadutu, monsieur Rouremé Chateau, bourgoumestre, et madame Tikourou Pascaline, bourgoumestre adjoints sont désignés dans les territoires, désignés et approuvés au poste d'administrateur de territoire et administrateur de territoire assistant en regard de leur nom. Les personnes ci-après, en territoire dit du monsieur Ntambuka Pascal, administrateur de territoire, monsieur Bouliko Kourené, administrateur de territoire assistant, territoire de Kabar et monsieur Eli Rouba Boura Espoir, administrateur de territoire. Monsieur Kassindi Kingombe Benjamin, administrateur de territoire assistant. En territoire de Calais, Monsieur Boussey Jean Bosco, administrateur de territoire. Monsieur Mouamou Kamouese Hamza, administrateur de territoire assistant. En territoire de Walungu, Madame Shengamungu Anastasia, administrateur de territoire. Monsieur Tomsifu Félicien, administrateur de territoire assistant. Dans la cité de Minova, sont désignés et approuvés au poste de chef de cité et d'un chef de cité adjoint. En regard de leur nom, les personnes ci-après, monsieur Sengimana Rungande Augustin, chef de cité, monsieur Maombi Mutumai, chef de cité adjoint. Article 4, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Le secrétaire permanent de l'AFCM 23 est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Goma, le 6 juin 2026, Bertrand Bissimo, coordonnateur adjoint chargé des questions politiques, administratives, juridiques et diplomatiques de l'AFCM 23 et président du M23. Pour approbation, Corneille Nangam, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Les invités dans ce studio, nous recevons Monsieur Mick Moutiki, qui est président du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu, expert en gouvernance sécuritaire. Mick, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de notre chère radio Maendeleo, qui nous suivent même en ligne partout. Et bonjour aux co-débatteurs ici au studio.
Monsieur Mupira Mambo Ignace, qui est observateur, et il analyse les faits politiques, que ce soit dans la province comme en République démocratique du Congo. Ignace Mupira, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, je salue les co-débatteurs autour de ce micro, je salue également les auditeurs de Paix et Développement.
Nous recevons Defo Balibuno, Linda, cadre de l'UNC Sud Kivu, l'UNC, un parti politique de l'Union Sacrée de la Nation. Defo Balibuno, bonjour et bienvenue.
Nous disons bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour aux collègues et co-débatteurs. Nous saluons aussi la population du Sud Kivu. Nous disons merci pour l'invitation.
Daniel Mouroula est analyste indépendant. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi. Bonjour à tous mes grands frères, les aînés qui sont dans ces studios. J'en profite aussi pour saluer toute la population de la province du Sud Kivu, particulièrement les amoureux de cette émission Paix et Développement.
Voilà, nous recevons Baraka Joseph, qui est directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba. Baraka, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, bonjour aux co-débatteurs.
Voilà, nous recevons, nous l'avons déjà présenté, Mick Mouti. Quelle analyse faites-vous de ces différentes nominations? Certains acteurs qui ont été dans la société civile rejoignent aujourd'hui les postes, de responsabilité dans la ville de Bukavu et dans certaines entités sous la coupe ou sous la commande de l'AFC AM23.
Merci beaucoup. La première des choses, c'est de féliciter les heureux nominés parce que la dynamique d'optation de boulot, c'est une dynamique que moi je range parmi les mystères. Et je ne peux jamais combattre quelqu'un qui a eu son boulot parce que il y a une loi divine aussi en cela. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Je vois qu'il y a la configuration, il y a certains membres de l'AFC M23 de souche. Il y a certaines personnes de la diaspora, l'actuel bourgmestre de Dibanda, Priska Mwese, et c'est quelqu'un qui vient de la diaspora. Je vois les acteurs de la société civile, notamment la confirmation de Nicolas Kialangalilo, avec lequel on a évolué pendant longtemps à la société civile. Je vois aussi les bourgmestres adjoints de Maître Léon, qui est aussi un acteur qui était au noyau d'un CAF, si je ne m'abuse, qui vient de faire aussi son entrée. Bon, c'est une dynamique. Moi, j'ai toujours été parmi ceux qui disent il ne faut pas confondre les acteurs de la société civile de la société civile elle-même. La société civile a la vocation d'être apolitique, d'avoir un combat citoyen, parfois même d'être neutre ou de se ranger, mais les acteurs de la société civile sont des citoyens congolais libres, jouissant de leurs droits civiques et politiques, et en ce sens, nous ne pouvons que féliciter ceux qui ont été nominés.
Voilà, Daniel Muroula, des nouvelles autorités, bien évidemment, les nominés, mais certains anciens, nous ne savons pas aujourd'hui qu'est-ce qui leur a été reproché et dont les charges n'ont pas été portées, peut-être officiellement ou ouvertement, à la portée du public, quoi.
Bon, je pense peut-être que c'est par rapport à cette question de savoir que les charges n'ont pas été apportées à la portée du public. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ça. Est-ce qu'il s'agit de leur question interne? Mais aussi, ceux qui étaient nommés comme dirigeants des différentes entités, ce que nous attendons, c'est les changements. Et les changements, c'est quoi? Nous voulons voir une bonne gouvernance. Nous attendons d'eux. Et donc, l'assainissement de communes très propre où il y a un environnement propice. Et nous voulons voir une bonne gouvernance par rapport à la gestion de l'entité. Il y a que ça que je peux donner comme commentaire, mais pour le reste, on ne fait qu'observer.
Voilà, on attend d'une gouvernance exemplaire, une gouvernance au profit de la population. Défaut Balibouno,
bon, quelle attente? Attente, mais d'abord j'ai compris quel est le message qu'ils ont voulu faire passer. Parce que quand on publie des nominations comme ça, c'est qu'il y a un message. Et le message, j'ai compris qu'ils ont répondu aux nominations aussi de Kinshasa. Pour dire, vous nommez là-bas, nous aussi, nous nommons ici. Vous êtes là-bas, nous aussi, nous sommes ici. C'est ce que moi, j'ai compris. Et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter à cela. Demain ou après-demain matin, nous pouvons suivre que maintenant, ils ont un gouvernement aussi. Demain, après-demain, nous allons suivre qu'ils ont nommé ça maintenant dans les entreprises et sous leur contrôle. Donc, c'est un message que les gens doivent comprendre et s'attendre à plus que cela.
Merci beaucoup. Ignace Moupira, quelle attente?
Bon, je trouve que c'est dans la droite ligne de l'administration, de l'entité qu'il contrôle. L'AFCM 23 contrôle une grande partie du Nord Kivu et une partie du Sud Kivu. Ces entités doivent être administrées, que ce soit par ceux venant de la société civile ou que ce soit ceux qui appartiennent à des partis politiques comme, comme le maire Nicolas qui a été ici président de, du parti politique de Matata Pougne, LGD. LGD, oui.
Bien sûr.
Ceux qui, y en a qui viennent de la société civile. La société civile, c'est un vivier. Tout le monde doit puiser là-dedans. Et quand on devient acteur politique, on ne cesse pas d'être inspiré par les valeurs prônées par la société civile. C'est même une bonne chose. Et même lorsque, quand on cesse d'être acteur politique, en fonction, par exemple, on rejoint la société civile. Notre ami
Joseph,
il est représentant de, d'une organisation, c'est la première fois que j'entends parler, c'est
l'Institut Patrice.
L'Institut Patrice Lumumba. C'est un parti politique?
Non, c'est un centre de recherche.
Oui, donc c'est la société civile. Il y a des gens qui créent des organisations qui portent le nom de Mandela, par exemple. Il y a des instituts...
Bill Clinton.
Bill Clinton. Jimmy Carter, etc. Ça signifie que lorsque on cesse d'être disons, des acteurs politiques, on peut créer une fondation. À ce moment-là, la fondation réintègre la société civile. Donc il n'y a pas de cloison étanche, il n'y a pas de séparation nette, il n'y a pas d'adversité entre les deux secteurs.
Merci beaucoup à vous Ignace pour ce commentaire. Il y a cet autre fait, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est une nouvelle fois exprimé sur la crise impliquant le Rwanda dans l'est de la RDC où sévit l'AFSAM 23. Il a indiqué que les sanctions imposées au Rwanda ont permis désormais à Kigali un début du respect de l'accord de Washington. Je cite, en ce qui concerne, selon ce qu'il a dit, la RDC et le Rwanda, ils ont signé un accord de paix. Malheureusement, celui-ci n'est pas bien respecté. Nous avons dû imposer quelques sanctions du côté rwandais. Nous commençons à observer un certain respect de l'accord, a déclaré le secrétaire d'État Marco Rubio devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Il a reconnu qu'en plus de la normalisation de la situation entre la RDC et le Rwanda, la l'AFSAM 23 demeure un autre problème à régler. Il projette le retrait par ailleurs des troupes rwandaises de l'est de la RDC d'ici mi-juillet. Les choses avancent pas assez vite certes, mais nous espérons que le retrait des troupes rwandaises de la région sera effectif d'ici le milieu du mois prochain. Bien sûr, il reste le problème du M23 à régler, a-t-il souligné. De l'autre côté, il y a eu une réaction. Le Rwanda répond aux déclarations du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui avait reproché donc à Kigali à un moment le non-respect de l'accord de paix signé à Washington concernant le conflit dans l'est de la RDC. Les États-Unis avaient d'ailleurs pris des sanctions contre l'armée rwandaise pour son soutien au groupe politico-militaire AFC AM23. Kigali prend acte des déclarations du secrétaire d'État américain, y compris concernant sa reconnaissance envers les efforts du Rwanda pour honorer ses engagements dans l'accord de paix de Washington. Dans un communiqué, Kigali a réagi et a affirmé que toutes les parties doivent respecter leurs engagements. Dans sa publication, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndungiré, accuse Kinshasa des violations flagrantes des accords et dénonce un soutien continu de l'État congolais au groupe armé de FDLR ainsi que des attaques des drones dans des zones civiles. Ces accords ne peuvent être appliqués de manière sélective et les obligations de chaque partie sont indissociables, a poursuivi donc le Rwanda, ajoutant que la partialité ne saurait résoudre le problème. Nous allons analyser où est-ce que nous en sommes avec le processus de paix. Ça faisait très longtemps que nous n'avons pas réservé du temps pour ce chapitre. L'occasion faisant le larron, nous y revenons exclusivement ce dimanche 7 juin 2026. Joseph Baraka, vous l'avez suivi, Marco Rubio qui annonce le retrait d'ici à mi-juillet des troupes rwandaises du sol congolais, pratiquement dans sa partie est, le Rwanda qui réagi en précisant que toutes les parties doivent respecter leurs engagements et non exclusivement ou seulement la partie rwandaise.
Oui, nous avons suivi toutes ces déclarations et nous savons désormais que voilà, il y a cette projection-là. Je tiens à souligner qu'elle n'est pas une promesse ni une confirmation. Ce n'était pas aussi un ordre qui était donné, une pression vraiment formelle. C'était un peu exhortatif. Une certaine recommandation, un souhait, à la limite, parce que autrement, on aurait formulé peut-être des termes plus forts, à moins que les vœux soient des ordres. À moins que les vœux soient des ordres. Mais je pense que notre population et tous ceux qui nous écoutent au moins devraient ne pas mettre à l'esprit qu'il y a une date précise qui est sortie mi-juin, voilà, de la part des Américains, mi-juillet de la part des Américains. Mais au moins il y a ce souhait là-bas qui est ce retrait. Cela dit, ce que je constate est que tout le monde joue la montre. Ce que nous constatons en tout cas dans nos analyses est que à l'Institut, est-ce que tout le monde joue la montre? Je me souviens que avant que la Goma soit prise, il y a eu un stationnement à Bunagana durant plus d'une année. Je me souviens. Et je me souviens aussi que cette guerre, finalement, elle est un mélange où il y a des enjeux régionaux, où il y a des enjeux internationaux, et si aussi il y a des enjeux nationaux. Il y a d'une part ceux qui jouent la montre au niveau national en voyant dans tout ce qui se passe ici une opportunité. Il y a ceux qui, au niveau international, pensent qu'un bouleversement ou un rééquilibrage de force au niveau national, même à l'interne de la RDC, peut être en faveur d'eux. Parce que si, par exemple, un gouvernement qui est favorable aux États-Unis s'est maintenu, il est possible que, bon, après, il y a quelque chose sur le long terme qui peut être construit. Il y en a aussi au niveau régional qui peuvent être en train d'attendre un changement de ton. On ne sait pas. Vous voyez que la politique internationale et même nationale est faite parfois de retournements inattendus dont on ne sait pas l'issue tout de suite. Et je ne considère pas tout de suite que, bon, voilà, tant que je ne vois pas telle avancée précise sur une question précise, je ne considère pas qu'une promesse, un vœu ou quoi que ce soit est décisif dans le processus. Et je finis en disant que la particularité, par exemple, de tout ce qui se passe ici, c'est de savoir. Parce qu'on sait déjà qu'il y a un accord entre le Rwanda et la RDC, et il y a un accord entre la RDC et les États-Unis. On sait que, et ils l'ont déjà dit, on le savait, tous ces boulots s'y est revenu, sur la question du M23. Et nous devons savoir, à moins, bon, en fait, c'est une façon d'analyser tout simplement, et n'est pas une prise de position politique, je le souligne avant de le dire. Mais ce qu'on sait est que la grande question, c'est que deviennent, comme on l'a dit déjà ici, si le retrait effectif de forces rwandaises est fait, que deviennent le militaire censé être étiqueté comme étant M23? Est-ce qu'ils sont réintégrés ou pas? Et peut-être l'une ou l'autre partie, la partie congolaise, peut-être n'est pas encore d'accord sur le principe de la réintégration et que cela fait traîner un peu le processus. L'autre question sensible, c'est celle, on l'a déjà dit et répété, c'est celle de la question de la justice. Y a-t-il amnistie? Y a-t-il concrètement, voilà, une justice transitionnelle et une garantie des non-répétitions, des poursuites pour du cas Kishiche et tout le reste, que deviennent tous ce sont là les deux questions fondamentales. Après, les autres questions administratives, parce que la question administrative peut être interprétée aussi, je finis, en disant que, parce que la dernière rencontre à Montreux en Suisse, il disait que, bon, chaque parti va faire avancer ses propositions. À un moment, je sais que des questions administratives, des nominations, tout cela, mis ensemble, de la gouvernance des territoires occupés après un accord. Mais la question de la justice et de l'intégration, ce sont là les deux questions sensibles. Et tant qu'on ne saura pas, on n'aura pas des avancées concrètes, je ne vois pas qu'il n'y aura pas de retrait rwandais, tant que sur ces questions là-bas, ils n'auront pas sûr qu'elles leur sont protégées, on est d'accord.
Quel est le sens du propos de Marco Rubio qui annonce le retrait des troupes rwandaises mi-juillet, et en même temps il dit qu'il reste un autre problème à régler, le M23 MIC? Qu'est-ce que cela signifie?
Vous savez, l'interprétation d'un verbatim diplomatique ne saurait se faire comme si on parlait ici. Quand le texte commence par féliciter le Rwanda pour ses avancées par rapport au tenu de ses engagements. Ça signifie implicitement ou explicitement, diplomatiquement parlant, qu'on dit à la RDC qu'il y a des efforts à fournir dans le cadre de la tenue de ses engagements. C'est comme ça qu'il faut interpréter cela. Deuxièmement, ça veut dire que nous, les États-Unis, on aimerait souhaiter que d'ici juillet, vous serez déjà en train de clôturer, mais par manque de votre bonne foi, on a risqué kukawisha tenaibi bitu. C'est comme ça qu'il faut interpréter cela. La pression est plus sur le côté gouvernement congolais que sur les autres partenaires. D'ailleurs, l'AFCM 23 vient de trouver la part belle dans cette affaire parce que, en tout cas, on le dissocie du Rwanda. On dit, les gouvernements congolais avancent, on attend que le Rwanda sorte ses troupes. Mais de l'autre côté, on dit il reste un autre problème à part entière qui n'est ni lié au gouvernement congolais ni au gouvernement rwandais, les problèmes AFC M23. Si vous interprétez cette question, nous commençons à comprendre que les désidératas de M23 sont en train d'être noyés dans une dynamique nationale qui va rejoindre les prochains débats par rapport aux élections, par rapport au changement des constitutions, par rapport à la gouvernance interne, par rapport au oui protocole. Sur le oui protocole, a montré on n'y était qu'au troisième protocole. Ça veut dire qu'il reste cinq protocoles. La fois dernière, j'avais proposé que le protocole lié à l'administration du territoire et à l'autorité de l'État soit décalé pour qu'ils ne suivent pas la chronologie telle que citée, parce qu'ils étaient en train vraiment de les suivre. Échange de prisonniers, ok. La question de cesser le feu, et puis ils étaient sur la question humanitaire et la justice, et le protocole qui suit directement, c'est la gouvernance et l'autorité de l'État. Moi, je suis en train de dire que cette affaire soit mise un peu à la fin, de manière à vider tous ces éléments, parce que tout qui en a tué les dossiers n'a pas l'indjokweni. Donc, nous devons prendre tout ça dans un tout. Bien sûr, Dr Baraka a dit quelque chose de très important. Ce que il a fait mention, ce qu'il s'imbrique des éléments nationaux, des éléments régionaux et des éléments internationaux. Sur le plan international, je pense qu'il faut qu'on dise à la population, notre population, certaines choses. Quand on dit le Rwanda semble être en train de mettre en pratique les accords, il faut toujours lire. Est-ce que ni accord entre la RDC et le Rwanda, Njo ba américain banatilia satisfait, a on y accord entre ba américain na Rwanda na ba américain na RDC? Kuko ile accord tripartite, na kuko ile accord bilatéral. Il faut savoir on est dans quoi. Parce que n'oubliez pas que chaque jour à Rubaya, ça tire. Ça tire à Rubaya. Pourquoi ça tire chaque jour à Rubaya? Parce que sur la liste des espaces contenant les terres rares, le gouvernement a dit nous avons Rubaya. Et bon, les autres terres rares se trouvent au Lualaba et au Katanga. Qu'est-ce qui se passe dans le fond? Dans le fond, Rubaya n'est pas sous le contrôle du gouvernement. Donc, Ali Panaka Vieni, Anna.
iko na jikaza akamate Rubaya pour qu'aseme ambie ba américain, vous voyez j'ai quand même quelque chose à donner. Parce que les États-Unis étant partis voir Trump est allé le mois passé voir Xi Jinping pour dire à Xi et voilà il dossier à Iran inanikamata mumigulu bali wetu njo tanisaidia kunitosha hii haya, vous avez tous suivi. Mais le problème où il y a, c'est que le terre rare, zeni, tout lisema tutapatia ba américain, ziko lualaba, ziko manono, ziko, na zote ziko mumikono ya ba chinois jo bebiko, na titre, na matitre. Et du coup, hii dossier ya bieni tout lipatia ba américain, na yo inaanza konekana sa wa vile, on ne tient pas assez nos promesses par rapport na bieni tuko tuna, tunapana. Ça devient encore un peu plus complexe cet accord avec les intérêts que les États-Unis attendaient, avec ce que nous avons à donner et ce que le Rwanda a à donner. Je pense que ceux qui ont les oreilles sont en train de m'écouter. Donc, une question qu'on a dit complexifier du jour le jour, parce que en amont, il n'y a pas eu de larges consultations. Pour, bon, quand je veux parler, quand on va entrer au sujet, il y a ma référendum, le sujet auquel on devait faire le référendum, c'était Ima Minerez et Tulipatiaba américain. Population, il dit que quand on n'a pas naïki, tu n'as pas tia ivi, ivi naïvi, il garantit l'appropriation Koulembele. Maintenant, les populations riveraines, Habiko, ceux qui sont sur les terres, Habiko, j'avais dit la fois passée, par exemple, pour le parc. Est-ce que les gens savent que Kwako Renyi tu signé na Rwanda kama tu t'a cogéré parc ya Kahuzi Biega na parc ya nani ya yie tu ya Virunga congestion, ça veut dire que tu n'a cogéré kabisa, hein? Donc il m'habite yote njo bi kupa chokwa objet ya ma consultation na ma objet ya ma appropriation, mais malheureusement c'est tellement opaque que c'est seulement quand on nous a amené immigrés.
Les
Afghans, les. Je tout lui apprendre comment. Moi, il est accord. Je moi, bilibiote, binakouak. C'est ça. Tout lui ce qui a aussi comment. Mon cadre a coup désengorgé bande de Gaza. Il y a aussi les Palestiniens qui vont venir. Du banaouzi, ba israélien san. Est-ce que. Du coup, tout n'angalia bilibiote, mon prisme moya. Chier, béni tuko censé ku chier population mais tuko censé ku sacrifier l'avenir et tout en vivant avec les étrangers, en faisant des concessions sur les ressources. Déjà le problème qui est autour des parcs avec les populations riveraines, les pygmées, la peine cabée qui a la latitude qui a cette réputation d'être une institution souveraine, ikona ma problème sérieux. Mpakasai, mais ça m'entenda mbia bale ba population que tout anza i ba Rwanda bandugetu ba Rwanda nabo tuko nabo mu congestion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de débats encore?
Mais qui si je vous comprends bien, c'est l'applicabilité de l'accord qui pose problème et qui fait en sorte que le processus marche
les prémices de la mise en train et de la donc de conception de ces accords étaient tellement biaisées que je ne vois pas par quelle magie on devra le mettre à œuvre sur 3250 titres miniers que le cadastre minier congolais a. Plus de 2900 sont à l'est. Et vous pensez que tout cela va se faire comment?
Merci beaucoup.
Il y a beaucoup de gymnastique à faire qu'il va falloir rentrer sur ces choses-là.
Merci beaucoup. Ignace Mick est revenu sur l'applicabilité de l'accord. Mais comment Washington ou les États-Unis, Washington, malgré toute sa toute-puissance, n'arrive pas à s'imposer pour que les parties respectent l'accord?
Oui, Washington arrivera certainement à tirer son épingle du jeu, peut-être pour l'intérêt du peuple congolais, mais la crise congolaise, ou la crise des Grands Lacs, a plusieurs facettes. De sorte que, pour le commun des mortels, Ce que nous sommes en train de dire ici, peut-être que 50% des gens à Kadoutou ne comprennent pas l'accord, qu'est-ce qu'on a dit. Vous parlez de carrés miniers, et Thierry est concerné par les carrés miniers, est-ce que Chimp est concerné par les carrés miniers, quand le gouvernement de Kinshasa hypothèque, hein, je crois que c'est le mot, hypothèque les ressources de l'Est, est-ce que ces ressources sont à Mbujimayi ou à Moanda, ou ce sont des ressources de
Chabunda,
de Mongala, etc. C'est quand même nos ressources. Ce sont des ressources que nous ont léguées nos ancêtres. Quand on dit que le Congo, le plus grand du Congo, est un coffre-fort du monde, nous avons tout ici. Et c'est Dieu qui a réparti cela. Si c'est mal réparti, il faut demander à Dieu. Il nous en a donné suffisamment. C'est à nous de pouvoir les gérer convenablement. Je disais que la crise a plusieurs facettes et. Comme Mick disait, les accords qui ont été signés sont mal partis. Encore que les 3 ou 4 ou 5 accords que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si vous arrivez de les lire ou de les relire. Je ne sais pas s'il arrive aux compatriotes de Kinshasa de les lire ou de les relire. Déjà, il est difficile pour eux de lire la Constitution, hein, qui est notre texte. Je me demande si l'accord de Doha, l'accord de Washington, etc., on le lit même à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des députés qui ne l'ont jamais feuilleté. Il y a tellement d'imbroglio dans ces accords-là que je me dis, même dans le débat ici, je me dis par où commencer pour débattre. Parce que bon, il y a les aspects, je disais qu'il y a plusieurs facettes, hein. Il y a les aspects, la dimension politique nationale, même si ceux qui gouvernent disent il n'y a aucun problème, tout va très bien, d'ailleurs le pays marche bien, malgré les embouteillages, etc. Et il y a la dimension régionale, il ne faut pas ignorer ça, il ne faut pas ignorer que nous appartenons à un ensemble régional. Nous sommes bien obligés d'évoluer ainsi. Ce n'est pas pour rien que Mobutu, à l'époque, avait accepté qu'il crée la CPGL, qui n'est pas encore morte, hein, parce que nous continuons à bénéficier des acquis de la CPGL. C'est pour ça, par exemple, que nous traversons allègrement la route Kamembe-Bugarama, parce qu'elle a été conçue dans ce cadre-là. C'est pour ça que nous appartenons également à l'organisation qu'on appelle IRAS, l'Institut de gestion du gaz naturel du lac Kivu. C'est ainsi que nous partageons l'électricité. Et en temps de guerre comme en temps de paix, on n'a jamais coupé l'électricité ni au Congo ni au Rwanda. Parce que ça n'appartient ni au Congo ni au Rwanda, ça appartient aux deux pays. C'est pour ça que Ruzizi s'appelle Ruzizi au Congo et Ruzizi au Rwanda. Parce que c'est une même rivière, mais nous partageons. Donc, il y a la dimension de politique régionale, il y a la dimension politique internationale avec l'implication des Chinois, des Russes. À un moment donné, je voyais des jeunes, la plupart des jeunes, brandir des drapeaux des Russies pour demander à Poutine de venir nous libérer. J'ai vu ça à Goma avant le
même,
même ici, les gens croyaient beaucoup en Poutine. Donc, nous voguons, on se promène, on croit aujourd'hui aux Américains. Moi, je m'excuse, mais je ne connais pas une guerre gagnée par les Américains à travers le monde. Moi, je n'ai jamais, je ne sais pas. Le Vietnam, c'est un mauvais souvenir pour les États-Unis. L'Iran, qui est encore là, je ne sais pas si la guerre sera gagnée. Il y a surtout la dimension économique. Et c'est la plus intéressante pour ceux qui soutiennent les guerres, ceux qui nous font les guerres. Mais parce qu'il s'agit des retraits de troupes rwandaises, je suis heureux qu'enfin les États-Unis parlent de troupes rwandaises. Je suis heureux qu'enfin le Rwanda lui-même dise non, on ne va pas se retirer, c'est qu'il reconnaisse qu'il est au Congo. Alors que, bon, jusque-là, j'entendais que le Rwanda avait pris des mesures défensives et que c'était pas, il ne faisait pas la guerre au Congo.
Mais c'est protéger plutôt au Congo, protéger son sol à partir du Congo.
Oui, bien sûr, la mesure défensive, c'est-à-dire il met une barrière à partir de la frontière. Moi, je voudrais bien croire à tout ça, hein, parce que je n'ai pas d'autres possibilités. Lorsque, en 2002, les Nations Unies avaient demandé à l'Ouganda de retirer ses 15 bataillons en Ituri, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque avait en même temps demandé au président Museveni de ne pas retirer toutes les troupes. Et Museveni avait laissé, je parle de 2002, Museveni avait retiré 13 bataillons, il avait laissé 2 bataillons en Ituri. Vous connaissez l'histoire de l'opération Artemis, etc. Parce que pour le Conseil de sécurité, au rythme où on avait distribué les armes en Ituri, si l'Ouganda se retirait totalement de l'Ituri, ça allait être le chaos. Parce que tous les villages étaient armés, je ne sais pas si c'est déjà terminé. On parle encore de Kodeko, on parle de Zaïre, on parle de Hemalendo, on parle de... C'est parce que à ce moment-là, profitant de la guerre, tous les villages se sont armés. Est-ce que le retrait brutal des troupes rwandaises, moi je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas se retirer, est-ce que le retrait brutal n'aura pas pour conséquence une certaine anarchie, parce qu'on dit restauration de l'autorité de l'État, ça signifie nous allons...
Nous allons revenir.
Mais je n'ai rien contre mon ami Pourroussi. Mais les FRDC vont entrer avec, nos frères, les Oisalènes, etc. etc. Je crois avoir lu dans l'un des accords qu'il y a le rôle que la MONUSCO doit jouer pour, entre guillemets, s'interposer pour qu'il n'y ait pas de vide brutal sur le plan sécuritaire. Et donc, les États-Unis devraient consulter les Congolais quand même, malgré tout, même s'il s'agit de faire partir les troupes rwandaises. Et quelqu'un, je crois que c'est Mick qui a parlé du sort du M23. Le M23 fait la rébellion. Ils ont nommé des gens, nous avons commencé par là. Ils ont nommé
le
maire, le bourgmestre. Vous avez dit que vous nous avez épargné du préambule, hein, de ce texte-là. Mmh. Moi, j'aurais voulu que vous puissiez revenir à ce texte-là pour lire le premier tiré de ce préambule-là. Il se réfère à quel texte quand ils prennent des décisions. Parce que plus tard, comme ça s'est passé après Sand City, il faudra voir la validité de tous les actes qui ont été posés pendant cette période où, une période exceptionnelle, ou des autorités juridiquement non étatiques, hein, c'est une conception connue, non étatique, ils ne siègent pas aux Nations Unies de toute façon, donc ils savent eux-mêmes qu'ils sont des autorités de fait. À la réunification, il faudra relire, revoir tous les actes administratifs, juridiques posés par ceux qui ont administré cet espace. On distribue les parcelles. Je crois qu'on délivre même des titres. L'urbanisme et l'habitat.
Le mariage.
Oui, mais les mariages, la dénomination, etc. Est-ce que le premier tiré n'est pas vu la Constitution?
Ça commence par la loi fondamentale.
C'est
la
Constitution. Lisez, s'il vous plaît.
C'est bien mentionné, vu la Constitution de la République démocratique du Congo.
Ça, c'est le M23. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'ils cherchent... le fondement des actes juridiques qu'il pose sur les lois de la RDC. Parce que plus tard, parce que le pays sera réunifié, on leur demandera, vous avez posé des actes juridiques en vertu de quelle loi?
Merci beaucoup.
Ils vont dire, nous avons posé des actes en vertu de telle ou de notre constitution et des lois du pays. Donc je chute en disant, le retrait brutal, il faudrait quand même qu'on parle des retraits progressif et encadré. Et c'est là où, qu'on le veuille ou non, les Nations Unies doivent s'interposer à travers la MONUSCO, que les gens n'aiment pas beaucoup ici, mais nous qui avons vécu une certaine période avec l'AFDEL, le RCD, etc., nous savons que c'est grâce, entre autres, à la MONUC que ce pays a été réunifié. Donc, retrait progressif et encadré.
Merci beaucoup. Le conflit oppose plusieurs parties défauts. D'un côté, le Rwanda. De l'autre côté, le gouvernement de la RDC et l'AFSAM-23 pratiquement au milieu. Il y a des médiateurs internationaux, notamment, par exemple, le Qatar. Il y a également les États-Unis, Washington, à travers, par exemple, la réaction de Marco Rubio, qui félicite le Rwanda. Le Rwanda réagit en demandant à la RDC de respecter également sa part du contrat. Mais quel rôle peut jouer à ce stade précis le gouvernement de la République démocratique du Congo pour faire avancer la démarche en nous ramenant vers le chemin de la paix?
Monsieur le journaliste, vous savez que le vol ne signifie rien s'il n'y aura pas d'atterrissage. Et si on te dit monte dans cet avion, mais ça n'atterrira jamais, est-ce que tu peux encore y monter?
Malheureusement non.
Voilà là où nous devons réfléchir. Et les Américains ont déjà tout dit. Baba ni baba baba ni baba Camaro. Les Congolais ont pris les Américains, Trump comme baba. Sasa baba na tranché. Alors c'est mon tata ni kuzala jana, ni kuzala leo. Mais ni kwa kanisa zala mkubwa yako, fasi ingine njoo huyu.
C'est ce que les Américains ont dit. Ce sont de chercher les vérités sur les réseaux sociaux. Non, non. Les Américains ont tout dit et ils ont montré et à nous Congolais. Et si les Congolais n'ont pas compris, c'est leur problème. Ignace était avec moi à Sand City quand on devrait réunifier le Congo avec le gouvernement et le RCD. Moi, j'étais le parsec de Mouchobekwa. Ignace était patron à la société civile. Et on se regardait dans les yeux, je leur disais, tu t'as bien chez votre Bokav, tu t'as bien chez votre Kinshasa, tu n'es pas Gabola. N'est-ce pas ça, Ignace? Et il n'y aura pas de solution. La solution, Rubio vient de le dire, il vient de dire que le Rwanda, c'est un pays sérieux, dirigé par un Mouchamouk. À vous, Congolais, à toi, Kinshasa, de te comporter en Mouchamouk. D'ailleurs, tu m'as donné ce que tu n'as pas. Tout ce que Kinshasa a donné est contrôlé par qui? C'est par le M23, c'est par
la Chine.
C'est par celui que Kinshasa traite d'agresseur. Celui qui doit se retirer. Donc, il n'a rien donné aux Américains. Les Américains sont fatigués. Les Américains sont fatigués. Ils sont fâchés contre le Congo. Et un Congolais qui ne comprend pas, moi je risque de cracher sur lui. Kinshasa doit comprendre que les Américains ont plus de confiance au Rwanda, ont plus de confiance au M23 qu'à lui.
Mais avant ça, à défaut, les États-Unis ont sanctionné par exemple l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, l'accusant de soutenir l'AFC M23.
C'est ce que j'ai dit. Baba ni baba. Baba ni baba.
Donc on sent que les Américains
sont que tu penses que parce que tu es à table avec ton père, tu le maîtrises bien, mais ton père vient te dire Niko na mukuba yako. Manilza lambele yako. Nani mushamuka kupita. Il est sérieux, il est intelligent plus que toi.
À bien vous entendre, c'est-à-dire le gouvernement de la RDC ne devait pas se prévaloir d'avoir le soutien des États-Unis.
Non, il doit comprendre qu'avec le soutien qu'il a des États-Unis, ce soutien est d'abord aussi ailleurs.
Le soutien n'est pas exclusif.
Mais je ne sais pas comment est-ce que les Congolais comprennent. Ils aiment qu'on leur chante, qu'on leur berce, qu'on leur flatte. Pour que, si Kinshasa n'a pas compris le message de Rubio, nous allons vers la catastrophe. Voici. Rubio, il insiste sur le M23. Parce que c'est le M23 qui est l'aéroport. L'avion doit atterrir sur qui? L'avion ne doit pas atterrir sur l'aéroport qu'il vient de quitter. L'avion va atterrir sur l'aéroport de destination. Et la destination, c'est qui? La destination, c'est le M23. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Moi, je suis de l'Union Sacrée. Mais refuser de voir que le M23 a le dessus maintenant et que le Rwanda, peut-être c'est le Rwanda qui a dit aux Américains, sanctionnez-moi pour voir si cette fois-ci ce qu'elle va être sérieux. Moi je connais comment est-ce que ça fonctionne.
Comment M23 d'Atoka Bukavu?
Non, le M23 d'Atoka est de Wapi parce que le M23. Non, non, parce le maire de la ville n'est pas le frère de Moutira Ignace. Ce n'est pas notre frère. Aïndewapi.
Je précise ceci.
Aïndewapi.
Je précise ceci. Kinshasa.
M23 Aïndewapi.
S'il vous plaît, défaut. Parce que Kinshasa estime qu'il faut sanctionner. C'est le narratif de Mouyaya, le narratif permanent de Mouyaya qui estime qu'il faut sanctionner le père pour toucher le fils.
Mouyaya et Camaro. Mouyaya et Camaro. Baba ni baba et Baba ni mam. Camaro. Bouyaya, si Bouyaya ne dit pas ça, il aura les millions comment? Aujourd'hui, si tu veux avoir les millions au Congo, Tukana Kagame, Tukana Rwanda, Tukana M23, on te fait des millions. Même ici où nous sommes, si nous avons besoin des millions, on peut nous les donner. On peut nous les donner, on a Tukana Rwanda, on a Tukana Kagame, on a Tukana M23. Bah, tu vas piger Mikono Bukavu.
Merci des fois.
Mais or, il est Mikono, mais ici, là, les mêmes Mikono. Écoute, on donne les minéraux. Le jour où on osera donner les minéraux de Mukungwe. Mukungwe, c'est chez ma grand-mère. C'est là où ma mère est née.
Peut-être qu'on a donné Mukungwe aux Américains. Non,
écoute, je vais vous dire la vérité. Bezo Kahundu, c'est mon cousin direct, parce que ma mère, c'est sa tante. Le jour où on va donner Nyamurale à Lubona, c'est chez moi. C'est notre terre, c'est notre champ. C'est pour moi.
C'est
pour moi.
Vous avez élu le président
Tshisekedi. Basirwa, mon grand-père est enterré là-bas. Karende est enterré à Lubona là-bas.
Merci beaucoup.
Donc, le jour où on va donner à quelqu'un d'autre notre champ, champ Bayangu, je prends aussi les armes.
Merci beaucoup. Des faux, même si nous n'encourageons pas que à chaque différent, l'on prenne les armes. Voilà, mais non, bon, telle
est votre position. Parce que celui qui t'arrache, il t'arrache parce qu'il a la force.
Merci beaucoup.
Alors cherche aussi cette force.
Daniel, je repose la même question. Quel rôle Kinshasa doit jouer en ce moment pour faire avancer la démarche ou le processus de paix?
Merci beaucoup. Expédie, vous savez que parmi les problèmes de ces pays, il y a les bons français. Et surtout, c'est au niveau du discours. Et c'est là où j'apprécie beaucoup l'anthropologue Olivier de Sardin, qui par le développement et ses multiples concepts, les discours où chacun estime ce qu'il dit et ce qui doit être vrai. Nous avons, nous tous, suivi les discours des Rubio, qui a salué quand même le respect des engagements côté rwandais après les pressions, parce qu'il y a eu des sanctions, et ces sanctions ont amené ces pays à prendre et à respecter certains engagements. Et dans les accords, Kinshasa a insisté les retraits des troupes rwandaises du sol congolais pour que de leur part, ils respectent aussi leurs engagements, entre autres, de ne plus armer les SDF de l'air, mais aussi de les mettre hors état de nuire du côté rwandais. Donc il fallait que ce soit d'abord le Rwanda qui pose un acte. Dès lors que le Congo estime que ces troupes rwandaises, que ce soit les FDLR, que ce soit les ADF qui se trouvent sur notre sol, il fallait qu'ils se retirent et que la responsabilité maintenant du côté congolais soit respectée.
Donc maintenant, il incombe
parce que nous avons vu,
de la RDC,
nous avons vu,
de jouer sa carte.
Oui, de jouer sa carte. Nous avons vu les M23 se retirer dans certaines zones. Cela a commencé par Lubero, dans plusieurs villages. Ils se sont retirés du côté
de la plaine de la Rosie.
De la plaine de la Rosie, en commençant par le village jusqu'à Katogota, ils sont rentrés. Mais là, cela vient d'où? Parce qu'en dehors de ce qui a été signé, et ce que se raconte dans les médias, il y a ce que se raconte aussi dans les coulisses. Respectez les accords de votre part. Et comment ça doit se faire de manière échelonnée? Retirez-vous d'abord du sol congolais. C'est pas pour rien que les Américains peuvent dire que d'ici mi-juin ou juillet, les troupes rwandaises seront retirées totalement de terres congolaises. Donc il y a des choses qui se racontent ailleurs. Parce que nous avons parfois tendance à montrer que nous maîtrisons la situation plus que ce soit Kinshasa. Ils ne sont pas bêtes. Ce sont des gens aussi congolais comme qui ont le plein droit de réfléchir, des intellectuels, donc l'élite congolaise. Et qui estiment voici ce qu'on fait. Parce que la politique a ses approches, ses méthodes. Ce qu'ils ont fait défaut, que je respecte beaucoup, et l'aîné Ignace, à l'époque, ce qui s'est passé à Sun City et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qui est vrai, ils maîtrisent les questions de la sous-région. Mais il y a d'autres approches, l'évolution, le dynamisme politique. Et on estime, mais les Rwandais, nous avons des minéraux, ils ont signé, nous avons des accords, voici ce qu'on va donner. Mais Kinshasa n'a pas donné ce qu'il n'a pas. D'après tout ce que nous avons, à partir à la RDC, que ce soit à Ouvaya, que ce soit
l'administration de
l'AFCM 23, parce que Ignace a posé une question. Il se réfère à la condition exacte posée, pour donner comme prétexte, voilà, nous nous sommes référés à la condition. Mais après le retrait des troupes, donc, du M23 à Lubero,
Nous avons vu que l'administrateur territoire de la cité, donc le chef de la cité, a annulé certains actes. Et du coup, ils ont demandé aux gens qui ont arrêté les enfants, ou le mariage arrêté sous l'administration de la FCM 23, à l'époque, devraient encore rentrer pour encore se faire régulariser. Cela a été dit.
C'était pour chercher de
l'argent. Je m'excuse, c'est pas propre. Non, j'ai dit, je m'excuse des défauts. Je vous ai laissé tout le temps pour s'exprimer. Est-ce que ça sera la même chose? Parce que nous avons vu tel Yabourous qui avait dit que les actes posés par l'AFCM 23, d'ailleurs, il y a une ordonnance. Vous avez suivi même le ministre de la fonction publique, le VPM, fonction publique, il a dit que les gens engagés sous l'administration AFCM 23 ne seront pas considérés lorsqu'il y aura la réindication du pays. Et ceux qui étaient d'aller fonction, que ce soit la SNEL, dans d'autres entreprises publiques, peuvent encore réintégrer, parce qu'ils sont encore payés par l'État congolais. Donc ce sont des questions en principe, lorsqu'il s'agit des accords, il y aura des harmonisations à l'interne. Voici nos gens qui ont intégré l'administration publique parmi les engagements. Nous pensons que l'État congolais doit maintenir.
À ce stade, que doit faire le gouvernement de la RDC?
Le gouvernement de la RDC, parce qu'en principe, comme les amis, ce sont où les troupes rwandaises vont se retirer d'ici juin, et le gouvernement a pris les engagements à insister qu'ils se retirent d'abord, que nous, maintenant, on soit en mesure de respecter aussi nos engagements.
Merci beaucoup.
Ok?
Merci.
Et je pense que c'est ce qui sera fait. Donc, le gouvernement avait donné ça comme préalable. Avant que nous, on pose un acte, qu'eux soient les premiers à poser un acte, à se retirer sur le sol congolais, et à notre tour, maintenant, on va aussi, maintenant, respecter nos engagements. Et je pense que c'est là où nous allons. Attendons maintenant que l'acte sera posé par. Parce qu'ils ont dit non, on résolut d'abord le problème entre les Rwandais et la RDC. Et par après, il y a maintenant un conflit entre Congolais. Et le conflit entre Congolais, ils estiment que c'est maintenant c'est l'M23. Maintenant que le Rwanda, dès lors que le Rwanda a posé cet acte, on va maintenant se mettre sur une table. Parce que même que ce soit le processus de Doha, aujourd'hui délocalisé, c'est toujours les Américains qui sont aussi considérés comme facilitateurs. Et je crois que c'est là où maintenant nous allons.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc. Nous avons noté l'essentiel à ce stade de notre émission.
Est-ce
donc,
qu'on ne peut pas préciser
nous allons ouvrir le chapitre changement de la Constitution, mais nous donnons possibilité à tous les intervenants d'intervenir pendant 30 secondes et nous allons passer à l'étape suivante le temps d'après. Des fois, vous voulez réagir à chaud.
Quand les gens parlent du retrait du Rwanda,
des troupes rwandaises,
pour. Même les intellectuels congolais, ils pensent que tout rwandophone est rwandais.
Ça, c'est vous qui le dites.
Nous voyons le comportement et les discours de nos populations, de nos intellectuels et de nos politiciens qui se flattent entre eux. Je vous dis, Tshisekedi n'est plus dans la logique populaire de ces flatteurs qui pensent que tout rwandophone est rwandais. Il a nommé Maggi Rwakabuba, qui est rwandophone. Donc, celui qui osera prendre tout rwandophone au rwandais, c'est celui qui fait la guerre.
Tout rwandophone n'est pas rwandais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien entendu, en fait. Joseph, vous avez suivi le niveau d'analyse de tous les intervenants. Quelle est votre contribution additionnelle pour cette partie?
Je les salue, tout a été bien dit, c'est complémentaire à nos auditeurs de se faire chacun une opinion. Deux petits points seulement, j'insiste sur le fait que nous devons rester lucides et ne pas oublier que chaque partie essaie de jouer la question de la montre en attendant qu'à un moment ou un autre, le drap tire de son côté. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, nous souhaitons effectivement que le pays retrouve son unité d'abord et qu'il y ait un consensus politique sur toutes ces questions. Nous souhaitons qu'il y ait un accord de paix global et qui conclue tout ça. Et seulement, je ne souhaite pas que les gens se mettent en tête un calendrier précis parce qu'il y a encore des questions de fond qui mérite un certain intérêt particulier avant que cela n'arrive. Mais au moins, nous saluons ce qui se passe et nous espérons que le gouvernement congolais prenne maintenant le devant dans tout ça et aide la population à trouver la paix.
Mick Moutiki, donc, pas de calendrier, pas d'agenda, donc le bateau va naviguer à vue en attendant que la solution vienne de quelque part.
Non. kaka Daniel, ulishaka soma hizi maakor zenyu nasema kama ifo Rwanda kwanza yajiri njo Kongo yajiri.
C'était l'exigence.
Non, nisikie.
Oui, oui.
On a pris beaucoup de temps pour savoir si ça sera la concomitance. La concomitance, ça veut dire quoi? C'est ça le consensus qui a eu lieu. Parce que depuis l'Angola, depuis qu'on était à Luanda avec Wagner Kaikwamba, c'était le débat pour savoir qui va commencer. Est-ce que c'est la poule qui va d'abord donner l'œuf ou c'est l'œuf qu'on va couver pour donner la poule? Et puis on a dit ça se fera au même moment. Au même moment, il y aura des poules qui sont en train de mettre au monde des œufs et des œufs qui seront en train d'être, de se clore dans des couveuses à Ozebanalalia, de telle manière que Kusikwe n'est ni gagnant ni perdant. Parce
donc,
que,
au même moment,
au même moment, qu'il y a au même moment, on traque. D'ailleurs, je vous dis, notre gouvernement a déjà donné la cartographie et le calendrier ya kutosha ba FDLR biko. Ça veut dire quand on a ces macamani exigence ya gouvernement, c'est du populisme franchement, hein?
C'est à nuancer parce que quelle est la zone qu'occupe le FDLR? Elle est couverte par
non le gouvernement à la cartographie.
S'il vous plaît,
est-ce qu'on peut me protéger
Mick le temps?
Non, je pense que nous on ne va pas dire ce qui n'existe pas. Hein, j'ai aimé Dani oui, pour dire que nous n'allons pas nous créer des chimères ici et oui. Penser qu'on est très intelligent. Ici, il y a des accords. Balishaka sikilizana bibatafanya na gisi batabifanya. Gisi batabifanya njoae. Chez le gouvernement congolais, tu n'as pas na cartographie. Il y a ba FDLR na calendrier. Iko, ça existe. Ok. Oui, oui. Na Rwanda nayo inasema ça mutakuwa mko mnafo. Dans les zones que vous dans les zones.
C'est le gouvernement qui
c'est le gouvernement qui connaît parce
et là,
que
elle a été publiée, je la connais aussi.
Effectivement, parce qu'ils rient, j'en parle parce que j'en sais quelque chose. C'est pourquoi je ne voulais pas que ça soit passé que le gouvernement a exigé.
Première action de la C64, elle est vue comme un test sur la capacité à mobiliser des opposants. Le mercredi matin, Kinshasa s'est réveillé au ralenti, peu de circulation, ce qui n'est pas habituel dans les rues, et pas d'embouteillage, notamment sur les grands axes pour sortir de la ville, précise RFI via un article publié le même mercredi. Certains magasins sont restés fermés, plusieurs écoles ont signalé des absences du côté des élèves, mais aussi des professeurs. Dans certains quartiers visités, le matin est réputé proche de l'opposition. On se réjouissait de ce calme apparent, estimant que le mot d'ordre avait été suivi. Pour d'autres Kinois, ce ralentissement, il est aussi dû à une inquiétude concernant d'éventuels heurts possibles dans les rues. Plusieurs parents, notamment, ont confié à RFI avoir préféré garder leurs enfants chez eux à la maison. Une ville au ralenti, mais pas à l'arrêt. Dans les rues, mercredi, il y a eu des transports, des bus, des services publics, mais aussi des minibus jaunes appelés des 107. On peut aussi voir des vendeurs de rue, précise RFI, l'avant-midi de mercredi, des cambistes. Les stations essence ont ouvert, comme la plupart des supermarchés, a signalé aussi une présence sécuritaire plus importante que d'habitude aussi, même si il n'y avait pas eu d'incident rapporté. À l'issue de cette journée de mobilisation, le bilan est resté pourtant contrasté. Le mot d'ordre de l'opposition n'a pas été suffisamment suivi pour paralyser les grandes métropoles congolaises, mais assez pour envoyer un signal fort dans la population et surtout dans le camp présidentiel. Sur les réseaux X, Deli Sesanga du parti politique En Vol n'a pas caché sa satisfaction. Je cite ce qu'il a écrit en peu de mots. « À main nue, nous l'avons plaqué au sol. » Côté majorité présidentielle, Jean-Thierry Monsenet, beau cadre de l'Union sacrée de la Nation, a plutôt qualifié la journée ville morte d'une journée vivante, estimant que l'appel de l'opposition n'avait pas suscité l'effet escompté. Pour éviter que cette journée soit très suivie dans la fonction publique, le ministre Jean-Pierre Liaou avait rappelé les dispositions légales et réglementaires relatives à la sudité, la neutralité et l'apolitisme des agents des services publics. Plusieurs cadres de son ministère avaient d'ailleurs été réquisitionnés pour l'occasion. Donc au niveau de la fonction publique, on a constaté que les agents ont répondu à l'appel de leur hiérarchie en se rendant au travail comme tous les autres jours de la semaine, boycottant donc le mot d'ordre de l'opposition. Ignace Moupira, vous êtes acteur social, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu les images partagées par certains médias, RFI a partagé certaines images, tout autant pour Radio Capi. Quelle vue faites-vous de cette première action initiée par l'opposition congolaise?
Oui, il y a une loi qui protège l'opposition. Il y a une loi portant dans un fonctionnement de l'opposition, même si elle n'est pas totalement appliquée en République démocratique du Congo. Je pense que l'opposition a utilisé des armes pacifiques, hein, comme la ville morte, mais le concept vient de l'UDPS. J'ai lu quelque part un article de journal où on dit « UDPS arroseur arrosé ». Le concept ville morte, nous l'avons appris dans notre tendre jeunesse. Nous avons appris ce concept de l'UDPS. C'était les méthodes de l'UDPS. On était à l'université, nous tous, quand on faisait les villes, c'était les méthodes de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est le retour de la manivelle. L'opposition sortie des rangs de l'UDPS, parce que les Fayoul et les autres sont des enfants de Tshisekedi et d'Etienne. Nous tous, on a milité à l'époque.
Moi, quand j'ai travaillé avec Liaou, Liaou, le père, les Liaou ici, j'étais petit.
À l'époque de la dictature.
Prendre ma mallette.
J'ai lu ceci dans cet article. La ville morte, Mobutu l'a vécu. Kabila l'a subi, Tshisekedi reçoit sa première dose. C'est un article. Et donc, je pense que ça va continuer aussi longtemps que le pouvoir n'aura pas compris qu'il faut résoudre toutes ces crises-là par le dialogue. C'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est selon le camp où on se trouve. Il n'y aura jamais de ville morte totalement réussie ou qui paralyse totalement la ville. Nous, on faisait des villes mortes ici à l'époque
du RCD.
À l'époque on utilisait des méthodes parfois plus ou moins violentes parce que on prenait des cadenas qu'on allait superposer sur les cadenas des boutiquiers, des magasins, etc., pour qu'ils ne tentent même pas d'ouvrir. Mais malgré tout, il y avait toujours des gens qui circulaient. Mais je pense que c'est un message fort adressé par l'opposition au pouvoir, hein, au gouvernement Tshisekedi. Parce que quand on réussit à diminuer les embouteillages. Quelqu'un a dit nous avons mis fin aux embouteillages par la voie pacifique. Hein? Quand on a vu les images, hein, quelqu'un a même écrit non, c'est faux, ce sont des images prises à 5 heures du matin. Mais à 5 heures du matin, les rues de Kinshasa sont déjà pleines. Il y a des gens qui sont à 4 heures. À Kinshasa, on ne dort même pas. Et donc, sans vanter outre mesure les mérites de l'opposition, c'est mi figue mi raisin comme la presse a pu l'épingler. Je ne souhaite pas que ces bras de fer puissent continuer. Ça, c'est un point de vue personnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est pacifique. Demain, avec les émotifs et les émotions que des gens intelligents, hein, des professeurs comme un bâtard intelligent, pour moi, je les appelle parfois des illuminés. C'est-à-dire un peu drogués, je m'excuse. Hein, un peu ivres de pouvoir. Non. Pas par les sapilos ou quoi, encore qu'il y a beaucoup de whisky qui coule à Kinshasa, il y a beaucoup de whisky qui coule à Kinshasa, et après deux verres de whisky, c'est tout comme, c'est comme si on avait pris...
Vous ne souhaitez pas que ça aille loin, nous le disons déjà, l'opposition convoque un sit-in à l'Assemblée nationale le 12 juin prochain.
Mais on a dit que Tshisekedi reçoit sa première dose. J'ai lu ça dans un article de presse. Il y aura la deuxième dose. Parce qu'ils vont prendre goût à la chose. Hier, c'était à moitié plein. Demain, c'est vrai que c'est d'être tout à fait plein. Lorsque l'UDPS, en mai 2025, moi j'étais à l'Assemblée nationale, en mai 2025, on a adopté l'avant-projet de la Constitution à l'Assemblée nationale. L'UDPS est venu nous chasser, nous tous, de l'Assemblée nationale.
2005.
On nous a chassés de la manière la plus violente possible. Voilà. Il y a eu des blessés, etc. Et donc, nous risquons d'assister à cela, ce qui n'est pas une bonne chose. Les gens intelligents dont on parle de Kinshasa, dont la moitié, je m'excuse, vient de l'Europe, vous pouvez citer le nom, même parmi les bourgmestres, on a parlé ici de quelqu'un de la diaspora. Là-bas, presque tout le monde est de la diaspora. Mm-hmm. En commençant par le président de la République lui-même. Mm-hmm. Ce n'est pas l'injurier qui est dit qu'il a passé tout son temps en Europe. Et donc, peut-être que les méthodes que, ou les approches auxquelles ils étaient habitués en Europe, peut-être que ne sont pas tout à fait adaptés au contexte congolais. Il est important et urgent que le gouvernement comprenne qu'il ne gagnera rien, encore moins le peuple congolais, à voir se perpétuer ce genre d'affrontement. Parce que ça va venir. Lorsqu'ils vont aller au Parlement, on ne permettra pas à l'opposition d'entrer au Parlement. Ceux qui vont s'opposer, ce sera la police, ce sera l'armée, ça sera la milice qu'on appelle Force du Progrès. Moi, je n'avais jamais connu des choses pareilles dans cette ville de Kinshasa. Bon, on peut dire que c'est trop dur. Non, à mon époque, non. Je ne parle pas de ce qui est arrivé après. Non, je parle de quand nous on était, quand nous on était pendant la transition, on n'a pas vécu, non, on n'a pas vécu ça. Non, on n'a pas vécu ça. Alors que c'était un parlement où on prenait des décisions par consensus, même quand on dit c'était une constitution de belligérants, quand on arrivera à ce point-là, je vais lire les points saillants de cette constitution. Il n'y a rien de belligérant. Quand on dit restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays, ce n'est pas une question de belligérant. Quand on dit organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, ce n'est pas de la belligérance. Quand on dit formation d'une armée républicaine intégrée, ce n'est pas de la belligérance. Quand on dit réunification du pays, ce n'est pas de la belligérance, c'est la paix. Merci. C'était ça l'essentiel des prémices de cette constitution à laquelle nous sommes arrivés. Encore que l'article 70 qui donne mandat au président de la République lui donne un mandat de 5 ans renouvelable. Non, renouvelable une fois. Non, renouvelable une seule fois. C'est ce que dit la constitution. Vous ne sentez pas cette insistance-là? Et pour ajouter une seule, parce que renouvelable une fois suffisait, tout le monde comprendrait. Mais on a dit non, ils ne comprendront pas. Ajoutons une seule, et on disait même une seule et une seule fois. Pour que plus personne n'ose et ne tente. C'est pour ça qu'on a ajouté une seule fois. Moi, j'étais à la commission PAJ, je sais de quoi je parle. On a failli se battre pour ça parce qu'il y en a qui disaient non, il faut quand même nous laisser le temps de faire un pas dans le troisième mandat. On a dit pas question. Et Kabila a goûté à cela. C'est pour ça qu'on a dit. La ville morte, Mobutu l'a vécu, Kabila l'a subi, Tshisekedi reçoit sa première dose. Voilà. Il faut qu'il évite la deuxième, sinon il risque d'avoir l'overdose.
Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous pensez que cette ville morte a permis à l'opposition de lancer un message?
Je vais vous dire, de toutes les actions que nous faisions ici, parce que nous avons, depuis novembre, mis un consortium de mouvements citoyens, confessions religieuses, pour parler uniquement paix. Mais quand on a vu cette affaire de changement constitutionnel venir, on avait vu trois dangers. D'abord, vous parlez ici des actes du M23 qui sont faits au nom de cette constitution. Mais je vous suis en train de vous dire que les mesures de confiance qui ont été signées à Doha ont à leur emphase préambulaire la constitution ici. L'accord cadre de Doha ont en son préambule aussi la constitution. Ça veut dire tout ce processus de paix, tous les accords, hein, qu'ils ont déjà pu signer parce que on les attend déjà à au moins ils sont au 9e round.
C'est à Trump et c'est au nom de cette constitution.
Même c'est signé aux États-Unis, c'est encore en phase préambulaire la constitution. Ça veut dire quoi pour nous qui cherchons la paix? Ça veut dire que nous qui changeons constitution, maintenant que bile bio c'est vivilisha fanika pour la paix au nom de cette constitution, bina tombé caduque. Or, toucher à ce processus de paix,
comme l'a dit Daniel, c'est là où se trouve l'intérêt de la population. Nous, comme société civile, on était vraiment concernés. Ainsi, on a changé le fusil d'épaule parce qu'on en était déjà à l'écriture. Quoi, tu n'as toujours pas tweeté, bamze mupira, bamze tira, badefo, tous les experts, mon domaine, mbalimbali. On avait déjà cette thématique alignée pour faire les référentiels, afin que de ces accords, mukuwa mouyakwa intérêt à population. Il n'y a que des agendas politiques à mon intérêt à quoi. Il y a des agendas sécuritaires, ni bien basoda ville à mona yako, et il y a des agendas diplomatiques, il y a gisi batatukula, ao tutakulana, à l'international, ao au régional. Maintenant, chez société civile, dans ma mouvement citoyen, nous nous sommes dit, tu inguises ce qu'on appelle l'agenda social, moi, bibi, tout, parce qu'il y a kutuambia. À force d'avoir donné tout aux Américains, nous ne pouvons plus construire des infrastructures. Alors, nous revenons sur la question
de, la
de, que toutes le ces actions, de toutes ces actions qu'on faisait ici, les feedbacks qu'on refaisait. On avait des feedbacks de Kinshasa, des amis de Kinshasa. Les uns nous disaient qu'on était des M23 et des Rwandais. Et les autres qui avaient un peu pitié de nous, nous disaient « Hamuko Munasiki ya boga !» Parce que huku chez Atuezi atate na fungula kinywa il y a la demiap, il y a la cybercriminalité et force du progrès, que si tu veux seulement faire quelque chose de subversif au même moment on vous appréhende. Avant la marche, souvenez-vous qu'il y avait déjà la délégation de Human Rights Watch et de la desk droits humains des Nations Unies qui sont venus pour dire les droits et libertés zinenda zina isha. Alors nous, on croyait que les délits c'est sanga et les autres, en tout cas, abataenda fasi. Mais le fait que, bon, pour ceux qui disent, amash il y a un proverbe, akafa kanyampiri ibuye, ou le sire chiumvire.
Ce qui veut dire en français.
Ce qui veut dire, en fait, il y a un animal qu'on appelle kafa. Il a la réputation de donner de très mauvais gaz. Maintenant, il a fait sur une pierre.
Il a pété
sur une pierre. La pierre n'a pas bougé. N'a pas réagi parce que c'est une pierre, mais l'animal a dit, même si tu fais semblant, mais tu as quand même senti. c'est en fait, c'est donc, dans son
coin. L'insensé ne comprend jamais.
Alors, nous sommes dans une optique où, j'ai dit sur Facebook, ce jour-là, que c'est il y a un mythe qui vient de tomber sur le pouvoir. Et je pense que c'était ça l'objectif de cette marche. Que il est beau gayaba tukusema hatuta sema au hatuta fanya ju batatufunga. Cette affaire, c'est ce qui est tombé d'abord. Et j'ai compris que après là, il y a les amis de la société civile dont les langues étaient liées, les Mouchagalousa dans la foulée, vous avez vu les Dani Singoma. Ils ont pu faire leur déclaration.
Au niveau du cadre de concertation.
Au niveau du cadre de concertation nationale. Il y a un groupe C120. Hein? Il y a beaucoup de C. Il y a des C64. Il y a des C4. Il y a maintenant, pour la société civile, il y a C220. Parce que le 220, c'est l'article de verrou. Et alors, il y a cette dynamique aussi qui commence. Il y a une dynamique qui commence aussi par rapport aux députés nationaux. Oui, les mouvements citoyens ont lancé une dynamique de déchéance, en tout cas symbolique ici, pour tous les députés nationaux qui sont allés dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, kama il est constitution et a coulé inapite. C'est sûr que Ababaoukou, batabaki anayi yabo enyi ma acte yabo banisinyela kako abata changer parce qu'il y a beaucoup impliqué moi les dynamiques. Ivi inchi moya ezi kwa na constitution mbili. Yenye nafaa inchi kwa inchi sini constitution. C'est-à-dire kule kutakuwa constitution na oku constitution. Seki fera inchi mbili. Njyo ile balkanizasyo yenye mkongomani hapendake asikie. Sasa batoto ya Kivu. Baneze ingia mwa ile aventure ae. Bachanje constitution na bayo kama habata rudiaka tena mumabaze zabo.
C'est-à-dire, pour vous, ces dynamiques combinées, confondues, sont de nature à bloquer le projet de changement de constitution.
Parce que, tout n'a pas maïvié, pour ceux qui font confiance à l'autorité à Kinshasa. Tout n'a pas prochainement, ça va nous battre campagne. Nous va dire, mon projet yang, mien d'aquer changer, constitution, voter pour moi. Et à l'entrée, Mwanzo ya mandat, on a changé constitution comme tu l'as promis au peuple. Tu n'as aucun problème avec le peuple parce que le peuple t'aura élu pour cet agenda-là.
Merci.
J'ai fini.
Merci, Mick.
J'atterris, s'il vous plaît, j'atterris.
Oui, synthétique. Hein.
Oui, oui, synthétique. Mais quand vous attendez la fin de votre mandat pour dire d'a changé constitution, Juni Bakie, non, on a tafouta ma raison. Vraiment, Zenia zi convaincre Moutou jusqu'au dire aux Congolais que ce sont les Américains. Djo va li kouambi à Kamawe ou changer constitution, yetou. Alors là,
c'était une insulte.
C'était une insulte aux mémoires collectives de nos pères de l'indépendance et à toute la nation congolaise.
Merci.
Donc pour nous, nous estimons que c'est une première et on va entrer vraiment dans une zone d'incertitude. Et puis, un autre argument simple.
Vous avez tout le temps d'intervenir.
Je me limite d'abord.
Joseph, est-ce que vous voyez l'opposition congolaise faire front commun pour barrer la route à ce projet de changement de la constitution?
Elle est obligée. Elle est obligée de faire front commun et je pense qu'elle fera front commun. La question reste de savoir si c'est celle qui est prétendue être armée et dont la grande partie est exilée. On a vu ce qui a été par exemple associé au président Joseph Kabila sur sauvant le Congo, entre autres. Et si, ou alors c'est seulement celle qui est composée de non-armés, mais je crois qu'à un certain moment, il y a une convergence nette d'intérêts sur la question constitutionnelle qui fait assez que
les intérêts sont convergents,
ils vont s'unir sur cette question. Et aussi, il y a la société civile, qu'elle soit. Vous allez m'excuser de le classer comme ça, mais par exemple la CENCO et les autres, on attend. Je ne sais pas si la déclaration de l'ECC a été déjà faite.
C'est dimanche.
Ils sont en pleine consultation.
Mais c'était très sage de saluer cette démarche. C'est en fait comme ça qu'on devrait procéder. On écoute tout le monde et puis après on a une position claire. J'espère que bon, en fait la position de l'Église catholique, la CENCO, elle on la connaît. On la connaît déjà plus ou moins. Et je pense qu'à un certain moment, il y aura une convergence de tout cela. Et bon, parce que c'était ça la question que vous m'avez posée, je m'arrête.
Parlant oui. De la position de l'Église, il faut dire que c'est une intervention dans la foulée pour compléter de Monseigneur Sikuli Paluku, qui a déclaré ce qui suit au moment où une partie du territoire national est sous occupation étrangère et que les populations du Nord Kivu et de l'Ituri sont massacrées de manière récurrente par les ZADF Nalu. La préoccupation de nos gouvernants semble être ailleurs. Ceci s'attelle avec une obstination incompréhensible à activer le processus de changement de la constitution de la RDC. Nous estimons qu'il serait plus utile et urgent de leur part de se pencher sur la recherche des réponses adéquates à apporter aux attentes profondes de la population. C'est ce qu'il a déclaré. Le président de la République, le gouvernement, les députés et sénateurs semblent tous préoccupés par la volonté de changement de la constitution, oubliant que cela apparaît comme un cautionnement de la division du pays que les Congolais redoutent. C'est ce qu'a indiqué Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, évêque du diocèse de Beni Butembo. L'action a été initiée par l'opposition, mais quel rôle peut jouer la société civile à laquelle vous faites allusion, notamment l'Église catholique et l'ECC, pour appuyer sur la machine?
Je reviens tout de suite parce que c'est intéressant et ça ouvre un certain autre point que je voulais souligner. En fait, dans mon premier propos, j'ai dit, il faut faire attention, tout le monde joue avec la montre. Et j'ai dit, avant la prise de Goma,
l'M23 a passé beaucoup de temps
à Bounagana.
Je vais illustrer ce propos. Et la proposition que je prends, elle est neutre. Elle est tout simplement analytique. Ce n'est ni pour ni contre Kinshasa. Parce qu'après, il faut pas qu'on ramasse.
Il faut qu'on clive tout.
Voilà. Le M23 a attendu patiemment que le Congo commette la faute qui va justifier l'agression. Sa présence. Il y avait des intérêts dont on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants des négociations de légitimation, d'achat des légitimités après le coup d'État en 2018. Mais il fallait attendre. Et Félix a donné la raison de l'attaque à Goma en disant qu'à partir de Goma, je peux prendre Kigali. Ça, c'était une faute lourde et nous payons encore aujourd'hui les frais de cela parce que même à l'ONU, ces propos-là étaient mis en avant. Quand on dit « je suis là pour défendre mon territoire », ainsi de suite, quel est l'élément de base sur lequel on s'appuie? On s'appuie entre autres sur des propos comme ça. Quand on va à Kalemi et on dit « qui peut m'empêcher, moi ?» à Lubumbashi, de faire ceci ou cela. Cela oblige certains acteurs politiques à se durcir pour prendre certaines positions, ce qui ne devait faire de lutte politique simple, d'opposition classique, se disent, comme personne d'autre ne peut vous empêcher, par quoi que ce soit, je prends des armes. Vous voyez un peu, donc parfois, les gens attendent des fautes comme ça, et il y en a des bêtes comme ça qui les offrent, et qui mettent à feu tout un pays et sa destinée à cause de ça. Je souligne cela parce que dans cette période ici, il se passe beaucoup de choses. Si Félix, imaginez une seule fois Félix s'entête, et que l'autre camp dise aussi, nous aussi on s'entête, alors, biakoukou abikoué.
Biloze,
qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Même des gens ici qui disaient accord, ainsi de suite, je ne sais pas. Et c'est pourquoi, par exemple, Denis Mukwege prend la parole, parce que tout ce qui est dit est suivi, suit en fait la oui. direction qu'il a pris. Il voit un peu ces dangers comme ça, parce que les gens qu'on dit ici, Rwanda, on a déjà un accord, tout cela peut voler un éclat. Tout cela, s'il y a des gens qui ont un intérêt particulier à créer un état tampon ici, ça peut être le moment idéal pour cela. Donc je dis attention, il faut faire attention, faire des petits pas d'abord. Bon maintenant, qu'est-ce que peut faire la société civile? Je crois que la RDC a actuellement besoin d'une élite capable de parler à tout le monde, d'une force vive capable de parler à tout le monde. De leur dire, on a parlé un peu à un moment de l'allégorie de l'avion qui décolle, qui doit atterrir. La question c'est, est-ce qu'on peut garantir un atterrissage en douceur de cette nation et de son peuple qui est suffisamment meurtri? Et nous travaillons à une proposition. C'est celle de dire, attention, au lieu de parler de la défense de l'ordre constitutionnel, puisqu'on a on sait déjà qu'on est face à des fous,
à nuancer bien évidemment. Donc il faut nuancer.
Il faut poser la question de fou. Parfois j'entends. C'est ce que je veux. Attendez. J'éclaircis mon propos.
Évitez de heurter certaines sensibilités.
J'éclaircis mon propos, ne vous inquiétez pas. Donc, la folie qu'il y a ici, c'est celle de voir qu'il y a des gens qui meurent chaque jour de vos choix et de vous entêter en faisant cela. Ça, si vous ne savez pas qualifier ça autrement, le médecin que je suis, qui sait voir, interpréter l'attitude de gens, sait que là, on est devant une psychose. Elle peut être liée au pouvoir, à la folie des armes, au biceps qu'on prétend avoir, l'overdose dont on a parlé. Pour ceux qui ont des armes, ils peuvent être dans leur folie là-bas. Pour ceux qui ont le pouvoir, ils peuvent être dans leur folie là-bas. Mais nous, on voit ce qu'on voit. Alors, ce que je cherche à dire sur ceci. Au lieu de s'endurcir aussi, nous aussi, dans ce qu'on a appelé illuminé en pensant que tout ceci sera résolu, je ne sais pas comment, je dis, à la place de dire, je vais défendre absolument l'ordre constitutionnel, et alors là, si vous ne voulez pas, on fait éclater le pays. Moi, ici, je veux vivre jamais être esclave de quelqu'un. En tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre. Et que je ne souhaite pas non plus voir mon pays éclater. Vous avez souligné cela. Je ne veux pas voir de ça. Donc ce que je dis, est-ce qu'on peut travailler sur un consensus? On s'est dit, vous voulez qu'on change de constitution ou la constitution? Ok, on va en parler, mais des préalables. Garantissez à tout le monde là, le libre, la politique, tout toutes les garanties politiques, et ça c'est un dialogue qui peut l'offrir, toutes les qualités politiques,
on tout, tout le monde rentre, combattant à bâton rompu.
Donc là, ce n'est plus, ça c'est la recherche de, du consensus sur la question constitutionnelle, ce n'est pas nécessairement la défense coûte que coûte de l'ordre constitutionnel. Vois un peu la proposition.
En le faisant par le Parlement, attends, qui est une émanation de la population.
Non, c'est pas ce que je dis. Je dis par le dialogue, parce que tout cela s'est fait éclater déjà la Troisième République.
Merci.
Ça, ça ne peut pas se faire dans l'ordre. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un coup d'État. Ce qu'ils font, ils se transforment en constituante. C'est un coup d'État, parce que on y reviendra peut-être au deuxième propos, mais l'essentiel est là. Ça, ça se fait dans un cadre d'un dialogue transitoire, et là, peut-être le président Félix ne devait pas diriger même les institutions qui émanerait de ce processus là-bas. Donc, quoi qu'il en soit, ça c'est très peut-être haut, mais quoi qu'il en soit, il faut que l'on mette la pression à ce pouvoir du congolais sous le régime de Félix, qu'il comprenne qu'il est plus que temps que l'on ait un dialogue. Et il n'y a personne d'autre qui le fera à part les Congolais, puisque la question c'est qui veut la paix. De même que j'allais demander, qui veut vraiment mettre fin définitivement au FDLR? Qui veut, je dis définitivement, qui veut vraiment?
Merci.
Et je dis maintenant, qui veut vraiment que la paix ait lieu au Congo et que des institutions fortes en émanent? Donc, il faut que ce soit les Congolais.
Merci.
Qui fassent ça.
Merci. Défaut Balibuno, quelle a été votre appréciation? Vous, vous vous êtes présenté comme membre cadre de l'UNC et en même temps de l'Union Sacrée. Ouais. Comment vous avez apprécié cette action de l'opposition? Vous, vous êtes au pouvoir des fois.
Nous sommes au pouvoir. Marie Yandugiro Boutou, Bichi Nabulira, Nabulira, Vigi Vigi, Ali Moucho Hoyani. Ça, c'est à l'époque du vieux Bodji gouverneur. Et à Ganze, qui a chanté cette chanson, et frère de Bodji, et c'est Bodji, le fils de Bodji, qui aujourd'hui a voté contre lui-même, qui crache en l'air, crache sur sa propre tête. Bodji a signé sa démission parce qu'il ne sera pas, il ne sera pas député, il ne sera pas président de l'Assemblée nationale si on change cette constitution, parce qu'il ne nous représentera plus. Maria, c'est sa mère. Maria, c'est sa mère. Bodji, c'est son père. Maria qui demande, Bodji qui dit, Maria, fais-moi le foufou. Maria qui dit, tu vas manger avec quoi? Il dit, avec Vigvigi. À l'époque, Vigvigi signifiait une poule, un oiseau, un petit poisson dans le sac. Ce sont les hommes qui alimentaient la maison. Je me dis ceci. On ne doit pas se bagarrer si ça a réussi, ça n'a pas réussi. Les termes, ça a réussi, ça n'a pas réussi. Ça a réussi et nous risquons de perdre notre propre pouvoir par notre propre idiotie à cause de flatteries. Les professeurs sont en train de nous flatter, oubliant que il nous amène vers le dehors en nous flattant. Mieux vaut quelqu'un qui te fouette parce que tu vas te corriger que quelqu'un qui te flatte parce que tu tends ta tête vers le dehors. Écoute, moi je suis arrivé à Kinshasa en 76 quand j'avais 12 ans et depuis chaque année j'ai fait au moins Kinshasa deux fois là. J'étais à Kinshasa hier, je suis revenu ici en avril. Le 17 avril, j'ai quitté Kinshasa pour ici. Je connais ce qui s'est passé et ce qui se passe à Kinshasa comme ici. Nous devons comprendre, nous qui sommes au pouvoir, que la journée ville morte de nos amis a atteint ses objectifs. Parce qu'il voulait montrer que nous sommes là et à tout moment, nous pouvons vous déranger et peut-être même embraser le tout. Vous connaissez Kinshasa? Kinshasa est debout à 4 heures du matin. D'ailleurs, les gens à Kinshasa ne dorment pas. Ils sont toujours dehors. Mais si le pouvoir lui-même est passé sur des médias publics pour dire demain aller travailler. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un à aller travailler?
Bien sûr, ton employeur peut te demander.
Non, non, parce que tu as signé le contrat pour aller au travail, non?
Il y avait une désinformation.
Donc, c'est le pouvoir lui-même qui a confirmé que ces gens ont réussi avec leur ville morte. C'est Kinshasa. C'est le pouvoir, c'est le gouvernement. Si j'étais Tshisekedi, je changerais. Le jeudi, là, je remanierais unilatéralement sans consultation et sans concertation au sein de l'Union sacrée. Parce qu'ils m'ont trompé, ils veulent me faire partir. Ce n'est pas l'opposition qui veut faire partir Tshisekedi. C'est beaucoup plus son entourage de tous ces flatteurs-là qui lui montre qu'il est le Mopao, il peut vivre éternellement président.
Vous le dites, votre pouvoir est sur le point de perdre l'impérium, le pouvoir.
Nous allons le perdre.
Mais quelle est la position de vous comme allié de première heure de l'UDPS? Quelle est la position de l'UNC qui reste calme face à cette situation, cette machine qui est lancée à vive allure?
Est-ce que vraiment, porte-parole de l'UNC qui parle, il est calme? Est-ce qu'il est calme?
Mais l'UNC ne s'est pas encore prononcé.
L'UNC s'est déjà prononcé.
Vous le faites à titre cavalier
solitaire. Je sais que vous voulez, vous voulez tout simplement voir Kamere marcher avec l'opposition. Kamere est du pouvoir, il a ses hommes au pouvoir, et il a déjà dit, comme Defoe l'a dit, le changement de la constitution n'est pas une priorité. Le problème du Congo, c'est d'abord la gestion, c'est la paix à l'Est. Kamer l'a déjà dit. Si vous voulez que Kamer marche avec l'opposition pour dire qu'il a dit non au changement de la constitution, vous ne le verrez pas faire ça.
Mais Kamer, comme député, il siège aux côtés d'autres élus, il siège à l'Assemblée nationale. S'est-il déjà prononcé ouvertement devant le perchoir de l'Assemblée pour s'opposer à ce projet? Parce que c'est de quoi la population a besoin pour galvaniser un peu plus son mental, connaissant que d'un côté, il y a une machine qui est lancée, mais il faut du répondant pour
bloquer cette machine. Au sein de l'Assemblée, tout le monde.
Parce que vous semblez, dans vos propos, ça a été votre introduction, faire porter le chapeau au président de l'Assemblée, qui est d'ailleurs de l'UNC, oublions que le président de l'UNC est membre de la chambre basse du Parlement et les députés de l'UNC siègent au sein du Parlement.
Marie-Anne de Guérobuntu. Et c'est ça, vous ignorez que c'est celui-là qui a remplacé Kamere à cette personne-là.
Démissionné.
Vous oubliez que c'est celui-là qui a remplacé Kamere à ce perchoir. Donc Kamere a déjà dit qu'il ne veut pas le changement de la constitution. C'est lui qui l'a remplacé, veut cela. Vous avez vu le parti politique qu'on appelle ABC.
C'est une association.
Non, non, il n'est pas. Cette association n'est pas membre, c'est une association politique.
Oui, politique, oui.
Une association politique, justement. C'est un parti politique. Parce que ce n'est pas membre de la société civile. Mouti, qu'est-ce que vous avez abaissé comme membre de la société civile?
Non, pardon.
C'est un parti politique.
C'est un parti politique. Il faut nuancer quand même parce que...
Non, non.
Les élus ont été élus sur le label de l'UNC.
Oui, maintenant. Non, non. Tout le monde, même les opposants, on est opposants parce qu'on s'oppose à la position.
Justement, Baudouin Mahieu, qui a été ancien VPM budget... a soutenu ouvertement le projet de changement.
Nous disons la même chose. Il a été exclu. Nous disons la même chose.
Il n'a pas été exclu.
Ils sont en contradiction avec la position générale du parti.
Il faut les expliquer.
Et on est d'accord, c'est la démocratie qui faisait leur position là, mais il sait, si on était dans un pays sérieux, le pouvoir devrait déjà prendre tous ces députés de l'UNC et leur dire, et vous les ministres de l'UNC, allez, nous vous mettons à côté parce que Vous n'êtes plus de l'UNC. Dites-nous, vous êtes maintenant de quel parti? C'est le pouvoir qui doit régler ça. Il débauche les hommes contre leur... Baba anakuzala. Mais kama mama yako anakuambia, ula iko njo baba yako. Tu veux que ton père se dispute encore?
Excluez-le.
Non. Baba alikuzala, mama yako anenda kuonesha baba mwingine. Est-ce que baba yako tafanya vita?
Excluez-le, c'est réglementaire.
Non, c'est déjà parti. C'est déjà parti parce que c'est la maman. Baba yako alikuzala. Kisha après un âge quelconque, ta mère te montre un autre papa. Est-ce que le premier va se bagarrer?
Parce qu'on a vu par exemple dans un parti frère à la FDC, les députés qui ont pris position contraire à celle du président, permettez-moi, le président fondateur, Modeste Batilukwebo, ils ont été sanctionnés, exclus de l'AFDC. Les Patrick Mouyomo et consorts.
Non. Nous, chaque famille a sa discipline. Chaque famille a sa discipline. Moi, je ne peux pas me faire la poitrine si toi tu dis que tu n'es pas mon fils. Est-ce que je peux insister que tu es mon fils? Il faut se bagarrer pour ça. Ta mère ne peut pas se bagarrer.
La logique familiale n'est pas.
S'il vous plaît, on ne particularise pas les débats, mais à bien vous entendre. Le pouvoir est en train de perdre.
Nous sommes en train de perdre le pouvoir parce que nous aimons qu'on nous flatte. Et celui qui ne nous flatte pas, donc il n'est pas du pouvoir. Je vous pose la question, parce que c'est la Constitution. Qui ne sait pas que. Ville morte ne signifie pas que les gens ne vont pas sortir de leur maison. Qui ne sait pas ça? Moi, je suis de l'UDPS. Et quand on a fait passer Birindwa, Premier ministre...
Vous étiez de l'UDPS.
J'étais de l'UDPS. J'avais quitté Kisangani pour aller soutenir les démarches de Birindwa pour qu'il soit Premier ministre. Et il y a où le ministre ici de la fonction publique qui a appelé les gens? Il m'accompagnait. J'ai quitté le bureau de son père parce que son père était de l'UDPS et son père était d'accord avec Birindwa. Et aujourd'hui, je vous dis, Bodji, c'est mon élève, je suis son oncle.
De
par sa mère, et il le sait, tout le monde le sait ici à Bukavu. Mais il ne fonctionne plus avec la logique de son fabricant. Merci. Qui est Kamel.
Merci beaucoup Défaut. Cette première partie, comment vous l'analysez, Daniel Mourou, là, l'action initiée par l'opposition congolaise et aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il faut le préciser, la dernière version de la proposition de loi Ngondakoy retravaillée par la commission PAJ permet au Parlement de se transformer en assemblée constituante pour adopter à la majorité des 3/5 un projet de changement des règles constitutionnelles avant validation par référendum populaire. L'initiative référendaire est reconnue au président de la République, au gouvernement, à la moitié des membres de chacune des chambres ou à une pétition de 100 000 citoyens. Ce texte de 45 articles qui abroge la loi du 22 juin 2005 sera soumis prochainement au vote des députés. D'un côté, l'opposition a organisé une action et de l'autre côté, l'Assemblée nationale ne fléchit pas. Elle avance tout droit.
Vous savez, M. Expedi, je crois avoir suivi Défaut Valibonon, que j'ai toujours admiré. Mais j'ai compris une chose, peut-être parfois en vieillissant, les idées aussi vieillissent. On ne doit pas individualiser les débats. Il a pris la parole plusieurs fois. Il a cité le président de l'Assemblée nationale qui est son camarade du parti, jusqu'à preuve du contraire. En voulant même créer un flou, montrer que AB c'est un parti politique. Restons quand même des administratifs. On ne peut pas confondre une association. Il faut aussi avoir le respect de la modération. Un parti politique doit être enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais aussi, nous avons opté la démocratie comme voie de gouvernance de notre pays. Et chaque citoyen a le plein droit de prendre une position. Les députés de l'INC qui s'expriment, pourquoi ils n'ont jamais été exclus? du parti. Vous êtes nommé dans les différentes ordonnances. Pourquoi vous ne refusez pas ces nominations?
C'est notre droit comme citoyen.
Comme le pasteur Flafou
oui,
au Sénégal.
Il fallait refuser. Dès lors que vous cohabitez, vous partagez les mêmes pouvoirs. Et Mebodi Sangara, c'est un citoyen congolais. Il est président de l'Assemblée nationale. Il a le plein droit de prendre une position. Et je confirme encore que tu n'as jamais élu. Donc, défaut n'est pas électeur. D'Abès. Il n'a jamais voté.
Comment le savoir?
Abès était député national à Walungu, élu à Walungu. Défaut, il était électeur à Bukavu. Et je ne vois pas voter, je ne vois pas défaut voter quelqu'un d'autre qui n'est pas, et qui n'est pas Kamel. Mais défaut, ne cherchez pas à limiter le peuple congolais à vous et autres qui contestent le changement de la constitution. La ville morte est là. Non, elle a changé quoi? La ville était morte. Est-ce que la guerre a pris fin? Non, défaut. Est-ce que la ville qui était morte ce jour-là, elle a ressuscité? Est-ce que ça a changé quoi?
Si la population avant la constitution.
S'il vous plaît, défaut.
Nous avons parlé du référendum. Ça, c'est une voie d'expression populaire. Ça renforce la souveraineté du peuple. Et en démocratie, il y a ceux qui disent, comme l'ami a dit, qui sont pour, et il y a d'autres qui disent non. Et c'est le peuple comme souverain qui va trancher à travers les votes. Oui et non.
Tu nous flattes
pour la constitution de notre pays, ce n'est pas une Bible. Et d'ailleurs, même la Bible, nous avons l'Ancien Nouveau Testament.
D'ailleurs, la constitution vaut que la
Bible. Non, j'ai dit, ce n'est pas une Bible.
Ça vaut que
c'est la Bible qui est intouchable et changeable. Alors, le débat serait, quelles sont les matières sur lesquelles cette modification ou ce changement...
Mais Daniel, est-ce que le contexte s'y prête pour un changement
d'accord? Le contexte, ça veut dire quoi?
Est-ce que l'on ne devrait pas prioriser...
Est-ce que d'abord, la question actuelle...
De l'autorité de l'État,
non, dites,
la
dites
fin nous. De la guerre avant de d'envisager le changement d'accord?
Nous disons ceci, la guerre ne doit pas aussi nous empêcher à réfléchir sur l'avenir de ces pays.
Parce que cette guerre a pour motif, entre autres, bien évidemment,
le blocage
au projet de changement.
Comme vous dites, donc, vous êtes d'accord, mais seulement que vous dites que le contexte n'est pas adapté. Parce qu'en principe, on ne peut pas organiser les référendums.
Parce que j'ai suivi Joseph.
Non.
S'il vous plaît, Daniel, j'ai suivi Joseph qui a estimé que c'est très normal de changer la constitution.
Oui.
Au nom de l'Institut Patrice Emery Lumumba, eux développent une théorie du changement des constitutions. Donc, pour lui, c'est favorable, mais le contexte, considérant que les opposants sont à l'étranger, sont dehors, ne s'y prête pas. Ça serait comme qui dirait boutiquer une affaire
pratiquement dans une chambre noire. C'est là où nous sommes. On dirait que la constitution, elle est déjà changée, selon le discours des uns et des autres.
Non,
c'est ça que j'ai dit. Les discours, selon eux, on dirait que le processus, donc la constitution a déjà changé. La loi Ngondakoy qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. D'abord, c'était un processus démocratique et parlementaire.
Elle a été adoptée
moyennant des amendements. Voilà. Mais deuxièmement, elle sera soumise au niveau du Sénat pour une seconde lecture. Le Sénat va voter et puis le président de la République va promulguer. Pourquoi nous devons nous entremanger par rapport à ça? Entrez dans les rues de la ville de Bukavu. Examinez ou lisez population. Est-ce que vous êtes contre ou pour le changement de la constitution? Je vous dis, la majorité sera pour.
Merci, Daniel.
Pour plusieurs raisons.
Merci.
Je m'excuse.
Merci beaucoup.
J'ai dit, et j'assume.
Merci beaucoup.
J'ai dit, la population de ces pays.
Merci beaucoup.
La population de ces pays.
Merci
parce
beaucoup.
Parce que l'AFCN 23, d'abord, qui prône le fédéralisme. Par quel moyen on va appliquer le fédéralisme si ce n'est pas à travers les changements à la constitution?
Bon, c'est une idée.
J'ai dit, par quelle magie.
À cet instant, peut-être précis.
Non. Instant précis, ça veut dire quoi? Parce que le référendum, donc, avec la loi. Ça doit s'organiser dans les 26 provinces. Ça veut dire que c'est un processus. Mais après que la paix, la restauration de l'autorité de l'État, nous avons encore les 3 provinces. Et là, on peut maintenant, les 2 provinces qui sont en guerre aujourd'hui, on peut maintenant passer au référendum.
Merci beaucoup.
Le moment, c'est quoi, défaut? La population du site qui ne veut plus voir, ou la population de la RDC, pourquoi devons-nous avoir 500 députés? Défaut. Dites-nous.
Et pourquoi on devait en avoir
pourquoi un? Devons-nous pourquoi avoir le Sénat?
Pourquoi en avoir un?
Maintenant, ça serait ça le débat. Allez aux urnes. Dites non à travers les urnes.
Merci beaucoup.
Mais ne commencez pas à individualiser le débat
merci
en disant que vous voulez, vous là, Donc la démocratie exige que
merci.
Chacun doit s'exprimer librement.
Merci beaucoup, Daniel.
Et nous, nous estimons que
merci
moi, comme Daniel,
merci
la population, nous disons, il faut merci le changement beaucoup. De cette constitution.
Merci beaucoup, Daniel. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Nous allons faire un tout dernier tour de table pour clore l'émission de ce jour. Ignace Moupira, vous l'avez suivi. Le texte, la dernière version de la proposition de loi est travaillée par la commission PAJ. Permet donc au Parlement de se transformer en assemblée constituante pour adopter à la majorité des 3/5 un projet de changement des règles constitutionnelles avant validation par référendum populaire. Comment vous évaluez d'abord le contenu de ce texte? Si vous l'avez déjà lu.
J'ai lu le projet. J'ai lu le projet de la loi référendaire proposée par le professeur Ngondankoy. Mais le professeur Ngondankoy lui-même avait tenu à préciser qu'il adoptait qu'il s'alignait sur les options fondamentales levées dans la constitution actuelle et que la loi référendaire ne modifiait pas les clauses verrouillées. Je l'ai suivi sur B1 et il a dit que sa proposition de loi ne déverrouillez pas l'article 220. Je note que dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, etc., et les commentaires, les analyses, etc., j'ai appris qu'on aurait tripatouillé le projet de loi du professeur Ngondankoy et que la forme actuelle, ce n'est plus la loi que le professeur Ngondankoy a proposée et que lui-même ne se reconnaît plus dans cette loi. Voici la différence entre l'Assemblée nationale de transition et l'Assemblée d'aujourd'hui. L'Assemblée nationale de transition, quoi qu'on la traite de parlement de belligérant, moi j'étais avec le mandat de la société civile, je n'avais jamais pris les armes. Et à plusieurs instants, nous faisions, nous, la société civile, les arbitres. La condition de la transition issue des Sand City consacrait la levée des options par consensus et pas par vote. Et la condition disait, on lève les options par consensus, à défaut par vote. Et donc, nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour l'article 1er, quand nous disons, la République démocratique du Congo est un État uni et indivisible. C'était pour régler la question entre les unitaristes et les fédéralistes. Le président de la commission PAJ, PA Sonam, Feu Papa Mwando Simba, président de l'UNADEF, est fédéraliste. On était avec Kyungu Wakumwanza, PA Sonam, président de l'UNAFEC, est fédéraliste. Je connais les unitaristes qui sont au gouvernement, en commençant par le président Tshisekedi lui-même. Malgré les options démocrates, je ne sais pas quoi, de l'UDPS, il est unitariste. Avec les Lutundula, c'est malsain de dire que l'unitarisme et le fédéralisme opposent l'Ouest et l'Est. J'ai dit que c'est malsain. C'est malsain, mais c'est malheureusement ça. Même dans la révision constitutionnelle aujourd'hui, je dois d'abord dire que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. L'article 217 lève les options, l'option de comment procéder, les modalités comment, de la révision constitutionnelle sont constitutionnelles. Et ce n'est pas l'UDPS qui a inventé cela, c'est le Parlement de transition, à partir de Sand City, même si les gens disent qu'elle a été rédigée à l'étranger, par des étrangers. En fait, ceux qui étaient à Matongé à Bruxelles pensent que tout s'est fait en Belgique. Elle a été rédigée à Kisangani. Et la mouture est partie de Sand City pour la condition de la transition. Les gens confondent. C'est la condition de la transition qui est partie de Sand City. J'ai l'accord global et inclusif ici.
Tout se faisait avec
ce sont les principes qui sont ici, qui ont été coulés dans la condition de la transition. Et pas la condition de février 2006. Celle de février 2006 est issue des sondages, des consultations, et il y a même eu une campagne d'explication des grandes options de cette constitution couler dans ces documents ici, l'essentiel de la constitution, de la future constitution de la République démocratique du Congo, expliqué en 24 points. Quand j'entends Lambert Mende parler, je ne me retrouve plus, parce qu'il a signé ici, comme Monseigneur Pierre Marini Bodo, président du Sénat, Lambert Mende Omalanga, rapporteur du Sénat, Olivier Kamitatu, président de l'Assemblée nationale, et Raphaël Lulungue, rapporteur de l'Assemblée nationale. Comment il peut se dédire? Alors je comprends. Je comprends qu'il y a une espèce d'absence de lucidité chez nos politiciens. Aujourd'hui, plus qu'hier, les gens sont guidés par le lucre. L'argent facile qui circule, à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, mon compatriote
Daniel
qui n'était pas avec nous, quand j'ai rappelé souvent que nous on nous payait, il n'y a pas de problème. C'est pas ça mon propos. Que nous on touchait 365 000 francs congolais, c'est-à-dire 10 000 dollars, point barre, et qu'aujourd'hui c'est 33 000. Moi-même je peux signer cette pétition en faveur de la constitution en fermant les yeux, à cause de l'argent. Et donc, écoutez, ne nous voilons pas la face. Nous prenons l'exemple du Sénégal. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Entre les deux leaders, le courant ne marche pas, mais les institutions marchent. La majorité parlementaire demeure majorité parlementaire. Aujourd'hui, par les moyens que nous connaissons, on a renversé la majorité parlementaire. Je n'ai rien contre. Hein. Je suis le premier président fédéral de l'AFDC Sud Kivu. Les partis politiques ne fonctionnent pas en ce moment ici, sauf l'UNC peut-être, bon, je ne sais pas. Mais donc voilà pourquoi je ne me présente pas avec cette casquette-là. Mais je sais comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Et à part notre Assemblée qui agissait par consensus, pour des questions telles que la double nationalité que nous avons refusée, que ceux qui sont nés en Europe, dont les enfants sont européens, veulent changer pour des raisons tout à fait... pour l'intérêt de leurs enfants. Oui. Je ne sais pas si ma grand-mère qui est à Chabunda a besoin d'un passeport diplomatique.
C'est ça.
Je ne sais pas si vous avez cité Lubona là, on a besoin de double nationalité. Mon frère, je pense que il n'y a que ceux qui viennent de l'Europe, qui rentreront en Europe après l'exercice de leurs fonctions ici, qui vont se dire, je pars avec la nationalité congolaise dans ma poche. Quand j'arrive à Londres, j'échange, j'ai mon passeport britannique. Moi, je n'ai aucun intérêt à avoir une double nationalité.
Merci beaucoup.
Pour ce genre de questions, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On mettait au frigo. On dit, ça va nous opposer. Nous y reviendrons lorsqu'on aura épuisé l'essentiel de la constitution. Alors, on va aborder le coude, les questions qui fâchent, comme le fédéralisme et l'unitarisme. Nous avons réglé cette question en disant à l'article 1er de la Constitution, la République démocratique du Congo est un État uni, pas unitaire, et indivisible pour éviter le fédéralisme, parce qu'au sortir de la guerre, justement, les belligérants qui connaissaient les effets de la guerre ont refusé le fédéralisme parce qu'ils savaient que c'était un penchant, une tendance vers... ceux qui faisaient la guerre à l'Est craignaient que l'espace Est ne puisse être collé.
Merci beaucoup.
Mais d'autres ont fait la guerre à l'Équateur. Quand Jean-Pierre Bemba parle, moi je ne me retrouve pas. Parce que lui, il devait se taire, tout simplement. Parce qu'il a pris les armes. Moi j'étais à Guadeloupe, et peut-être que vous n'y avez jamais été. Il a détruit cette ville-là, ce que Mobutu avait laissé là-bas, tous ses centres dessus, etc. J'atterris en disant que, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, Vital Kamerhe a dit que la révision constitutionnelle est possible, mais il faut que ça se fasse dans l'intérêt de la population. Et comme la révision n'est pas verrouillée, je voudrais informer les auditeurs que nous, députés de la transition, nous avions prévu, parce qu'il y a les annales parlementaires, il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Il était dit clairement que après la troisième, pendant la troisième législature de la troisième République, le Parlement devait procéder aux évaluations des options levées par notre Constitution. Par exemple, la décentralisation. Est-ce qu'elle a fonctionné? Est-ce qu'elle n'a pas fonctionné? Les gens disent, merci, yes. on doit nommer le gouverneur parce que les parlements font tomber le gouverneur. Non, c'est parce que c'est mal géré. Merci, c'est un problème de gouverneur, c'est pas beaucoup. Un problème des textes. Hein? Quand j'atterris par là, j'ai lu beaucoup de commentaires sur les dernières nominations. Il y a quelqu'un qui s'est amusé même à lever les noms, la liste des gens qui sont nommés. Moi, je crains que quand on va nommer le gouverneur, que ça ne soit monocouleur.
Absolument. Merci beaucoup. Mick, vous voulez réagir à chaud?
Je pense qu'on doit être vraiment circonspect à ces moments. J'avais déjà peur de la manière dont le débat allait. Parce que moi, souvent, les émissions où on parle des noms de personnes, moi, souvent, ça me gêne à un certain moment. Mais sachez que le Sud Kivu, en tant qu'entité politique, nous sommes en train de perdre les repères. Le premier gouvernement, Sama 1, le Sud Kivu à lui seul avait 15% du gouvernement. Mmh. Sans compter les autres influences que nous avions au Sénat, que nous avions ailleurs, à la présidence et ailleurs. Mais la manière dont on est en train d'opposer les fils et filles du Sud Kivu commence à me faire peur. Et quand j'attends qu'il y a certains de nos frères qui sont dans ce schéma-là, ça me donne de la nausée, franchement.
Très nausée.
Nous perdons de l'influence politique du jour le jour. On ne peut pas continuer à agir comme ça. Il s'agit de notre province, de toutes les manières.
Merci.
Alors, rentrons sur le débat constitutionnel. Nous devons nuancer. Pour la révision constitutionnelle, c'est constitutionnel qu'on fasse la révision constitutionnelle. Et là il n'y a aucun débat.
La Constitution le prévoit.
Le prévoit lui-même. Mais il verrouille certaines matières. Il verrouille que jamais nous ne voterons notre président dans les scrutins indirects, les caractères universels des scrutins universels, des suffrages universels lors des élections du président. Ça, on ne changera pas. Parce que nous savons comment nos parlements sont constitués. Les députés élus, les députés déchirent, élus et tout. Nous ne pouvons pas faire la révision constitutionnelle par rapport au mandat du président de la République. Ikiisha, inaisha, anaenda. On ne peut pas faire la révision constitutionnelle allant dans le sens de réduire les prérogatives des ETD et des provinces.
Merci, Mick.
Donc, je suis en train de montrer que ça, c'est côté révision. Mais le changement constitutionnel demande ce qu'on... Ça, c'est un pays de grand consensus. Ça veut dire que même Léopold D, à un certain moment, il pensait qu'il était très fort en ne voulant faire consensus avec personne. Le Congo est devenu comme une patate chaude, il l'a jeté. C'est un pays de consensus parce que si... Pour des questions existentielles, vous ne faites pas de consensus. Nous sommes plus de 445 tribus qui étaient des États, qui ont décidé de se mettre ensemble. Alors vous ne pouvez pas, individu, parce que vous avez besoin de proroger un mandat hors constitutionnel et vous voulez changer la constitution. Ce n'est pas une raison suffisante.
Merci beaucoup, Mick. On commence, on va finir
cette émission. Mais aussi, cette constitution dit qu'on ne peut pas y toucher pendant qu'il y a état de siège.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas état de siège.
On l'a pas touché. C'est bien entendu. C'est bien entendu.
Donc c'est que moi ma proposition, parce que peut-être je n'aurai plus la parole, ma proposition est celle-ci. Pour ceux qui ne veulent pas changer la Constitution,
pour ceux qui veulent changer la constitution, allons au dialogue global et inclusif.
Merci beaucoup.
À l'issue de ce dialogue, on saura avoir un consensus pour dire est-ce que nous changeons la constitution ou on ne la change pas.
Merci beaucoup. Vous revenez sur la recommandation de Joseph qui a proposé également un dialogue. C'est par là que nous clôturons l'émission de ce jour. Nous sommes taraudés par le temps. Comprenez donc, très chers intervenants, nous étions dans ce studio avec Daniel Mouroula, analyste indépendant, Mick Moutiki, du cadre de concertation de l'Ancien Civil, Baraka Joseph, de l'Ancien Patrice Emery Lumumba, Défaut Balibuno, Linda, nous vous disons merci.
Merci
également à vous, Joseph. Merci à Moupira Ignace qui est intervenu également dans cette émission. Passez un excellent dimanche en compagnie de Radio Mendeleo. Au revoir chez vous. Nous terminons par ce fait d'actualité. L'équipe de BC Chansport de Bukavu s'est imposée à Kinshasa face au BC Terreur. C'était hier samedi. C'est donc un parcours sans faille pour le BC Chansport de Bukavu qui évolue sans partage à Kinshasa. Le score au terme de ce match a été de 81 à 66 aux grandes dames donc des rossonneries de Chansport et surtout de leur président, l'homme d'affaires Didi Mudogo, qui encourage ses poulains à aller loin en remportant la coupe et en représentant la République démocratique du Congo à l'African Basketball League. C'est par ce fait d'actualité que nous finissons l'émission Paix et Développement de ce jour en vous souhaitant un excellent dimanche. Au revoir.
Merci beaucoup.